Bonsoir à tous et bienvenue à ce tout nouveau podcast de Triple Option, le meilleur podcast à l'est du Mississippi sur le football du college football américain. Cette semaine, le podcast est une présentation du studio, bien entendu. Oui, oui, vous avez bien entendu. On vous gardait la surprise depuis quelques semaines déjà, mais pour la première fois de l'histoire de notre podcast, nous sommes en direct, ensemble, en chair et en os. Après plus de 7 ans, je rencontre finalement, en personne, mon man crush Monday. Wallet, mon homme, comment ça va?
Hein? Écoute, ça va super bien. Avant le podcast, on s'est rencontrés pour aller manger, puis je te disais... J'étais aussi fébrile que quand on revient en nous, ça fait 5-6 mois qu'on ne s'est pas parlé, j'étais un peu nerveux, donc les papillons sont dans l'estomac, puis je parle un peu pour rien dire, là, c'est juste le stress, les nerfs de début de podcast, là, ça va s'estomper dans les prochaines minutes, mais comme tu viens de dire, c'est spécial, ça fait 7 ans qu'on se voit à tous les mardis de l'automne sur nos écrans d'ordinateur. Je passe quasiment plus de temps avec toi qu'avec ma femme, puis on se voit en personne, puis les studios ici, à bien entendu, sont incroyables. On a été bien reçus jusqu'à maintenant. Puis, on ne pourrait pas demander mieux, je pense.
C'est clair. Puis, c'est ça que quand je suis arrivé, j'ai demandé s'il y avait du footage, en fait, du stationnement. Parce que quand je suis arrivé, tu étais déjà là. Les deux, on était bord en bord du stationnement. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai. Puis là, on s'est mis à courir comme dans un film. Ça donnait une grosse accolade.
L'histoire ne dira pas qui a levé qui dans les airs.
À te voir la shape, pas mal toi qui m'a levé. Donc, non seulement je suis avec Wallet, mais on a sorti la tirée lourde pour aujourd'hui. Donc, directement de Sherbrooke, le chum Dion. Salut mon vieux, comment ça va?
Yes, sir. Très content de vous voir en personne. C'est vraiment spécial, c'est exceptionnel. J'avais pas le choix de venir en personne pour cet événement-là. Puis on en parlait un peu avant. Il faut que je revienne un petit peu plus souvent, faire des petites chroniques, des petits Coaches Corner. On a un Coaches Corner cette semaine. Puis en plus, ben les Buckeyes ont eu la meilleure victoire de l'année à date, toute équipe confondue. Fait que j'avais pas le choix de venir me braguer un peu là-dessus puis en parler. Fait que ça devrait être une très, très belle soirée.
C'est sûr. Puis parce que c'est le podcast le plus spécial de l'histoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le seul, l'unique, la légende, Steph Cadoret, mon vieux, comment
boys, ça
va?
Ça va super
directement
bien.
De Québec?
Oui, on fait toute notre bout de chemin. C'est sûr qu'on n'a pas fait aussi long que Wallet. Là. C'est ça, clair, c'est lui qui a la palme.
C'est loin.
Ouais. Mais écoute, je veux pas boster le temps de studio, mais je vais te dire que je suis content d'être là. Je me sens comme si je m'en allais à mon bal, mais j'ai hâte aussi à l'après-bal.
Oui, ça, c'est vrai.
Très bonne métaphore.
C'est sûr et certain.
Tu sais ce que ça veut dire, ça, Faf?
L'après-bal, ça veut dire que moi, je fais fini par soirée.
Donc, très content, les gars, sans farce. Merci de l'invitation.
Ben, merci d'avoir répondu présent à cette invitation-là. Ça s'est vraiment décidé. C'est le get-together le plus rapide que j'ai jamais vu de mon histoire. Voilà, t'es dit, je suis au Québec, telle date, j'ai le 26 de disponible, t'es disponible, tout a switché, tout le monde était là. Je disais, hey, les boys, on fait le long shot, j'appelle Steph. Première affaire que je dis à Steph, présent. Je t'ai directement dit, le 28, 26, on est disponible, puis tu m'as direct dit, ouais, je suis là. Là, j'ai fait comme, oh shit, là, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait à soi, la fébrilité, là, depuis 2-3 semaines, là, c'est assez exceptionnel.
La question est, qui garde nos enfants? Mystère. Ils vont s'arranger eux-mêmes.
Ils se gardent eux-mêmes.
On verra ça demain. Une chose à la fois.
Yes, donc... Évidemment, on a beaucoup de choses à vous parler. On profite du fait qu'on est en live pour faire un très, très, très gros show. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le segment recap des games de la semaine passée dans la NCAA. La noix, calme-toi. Avec le retour de Dion et l'un des matchs les plus importants pour le classement final de la saison régulière, un affrontement au top du top 25, on avait le droit à Ohio State, 6e au pays, qui affrontait Notre-Dame, 9e au pays. Ohio State se sont poussés avec la victoire 17-14. Parle-moi de ça, Dion.
Ouais, bien, pour vrai, un match qui a été honnêtement peu commun, qui a été hors de l'ordinaire pour les Buckeyes, si vous les suivez depuis quelques années. La défensive, c'était un talon d'Achille, comme Wallet aime si bien dire souvent. C'était vraiment une faiblesse. Ça a été une des games défensives les plus belles à NCAA que j'ai vues depuis longtemps, honnêtement. Des fois, on voit des games avec des bas scores à NCAA, puis c'est vraiment à cause des offenses qui sont comme très lamentables.
C'était pas Iowa.
Genre, ouais. Iowa. Parce qu'il n'y a juste aucun talent sur le terrain. Là, tu sais, les offensives ont fait des belles choses. Sam Hartman de Notre-Dame, des beaux jeux. On avait, tu connais Notre-Dame, Audric Estime, le running back, qui est potentiellement un des meilleurs running backs cette année pour le prochain draft. Il a fait des beaux jeux également. Du côté de Ohio State, QB Carl McCord, qui était à son premier gros départ contre une équipe du top 25. Il était nerveux, il a fait des belles choses, mais on a vu quand même des beaux jeux, mais ce qu'on voyait surtout, c'est des fois, Carl McCord ne lançait pas le ballon, puis je suis comme « Ah, oh, come on, lance le ballon! » Là, tu vois la reprise, c'est comme « Ben, il n'y avait pas vraiment personne d'open, comme c'était vraiment du bon travail des demi-défensifs, de la ligne défensive, des deux côtés de la balle. Gros props au corner qui couvrait Marvin Harrison Jr. parce qu'il a vraiment pas fait grand-chose de la game. Puis bon, il a été blessé au début de la partie, une cheville qui s'est fait rouler au milieu de la partie. Mais vraiment, ce corner-là, tout un match, il va probablement monter dans les stocks NFL. Et Ohio State ont comme pris le contrôle du match en début de deuxième demi. C'était 3-3 à la demi. On était comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment deux offensives mauvaises? Je pense pas que c'est deux offensives mauvaises. Je pense que c'est vraiment deux équipes qui ont des solides défensives. Ohio State prennent les devants sur une longue course de Trevion Henderson, très explosif. On se dit, OK, Ohio State va commencer à prendre le contrôle de ce match-là. Mais non, Notre-Dame fait une belle remontée, des beaux jeux. Sam Hartman était à son 50e départ NCAA. Carl McCord était à son 4e départ. Fait, énorme différence d'expérience des deux. Et ça paraissait, Hartman était contrôlé, posé, prenait des bonnes décisions. Et Notre-Dame sont revenus avec deux touchés pour prendre le devant 14-10 avec à peu près 4 minutes à faire au match. Ohio State essaie un 4e essai, ne le réussissent pas. Et il y a vraiment eu la
combien de t'as lâché de sacre à ce moment-là?
Ah, 3-4 environ. En fait, j'ai dit au gars, ball game, c'est fini, comme tout fan très rationnel que je suis. La game était terminée, bien sûr. Mais Notre-Dame n'a pas réussi à écouler le temps. Et je dois mentionner sur la dernière drive, JT Toimoloau, qui a connu une grosse drive, un plaqué pour perte, et a presque fait une interception sur un screen. Si ce screen était attrapé, c'était probablement un game de 40-50 heures. La game était vraiment terminée. Mais Notre-Dame doivent punter. Carl McCord, big boy shoes on, a fait une grosse drive, amené ça à la ligne de 1 avec une passe à Emeka Ogbuka. Et Ryan Day a finalement callé un callis de dive pour rentrer dans l'end zone et gagner ça.
Toujours plus facile de rentrer quand il y a juste 10 joueurs sur le terrain.
Oui, Notre-Dame avait 10 joueurs sur le terrain pour terminer le match. On va peut-être en parler plus tard dans nos helmets, stickers and flags. Mais en gros, une victoire qui est comme defining pour Ohio State dans le terme qu'ils ont gagné de la façon qu'ils ne gagnaient jamais. Si Ohio State scorait 17 points dans un match contre Notre-Dame l'an passé, ils ne gagnaient pas. Ils perdaient comme 34-17, j'imagine, ou 30-17. Ils accordaient plus de points que ça. Fait que c'est une nouvelle équipe qui va gagner de façon différente. Puis pour Notre-Dame, je ne serais pas surpris si c'était la dernière défaite de Notre-Dame cette année. Mm-hmm. Comme c'est une bonne équipe de football avec des bons éléments partout. Fait USC, on
a quand même une grosse horreur. Là. USC qui s'en vient, North Carolina, Duke, Clemson.
Oui, cette semaine, ils jouent contre Duke, on verra. Mais je pense, ce que j'ai vu de Notre-Dame, c'était quand même une équipe très, très bonne. Il faut juste qu'ils évitent les erreurs de base, si on veut. Mais pour un match défensif, c'est le plus de fun que j'ai eu depuis plusieurs années, avoir un match défensif dans l'NCAA. Fait que, plein de fun.
Yes, props are results. C'est vrai que ça définit un peu l'identité qu'ils ont comme, en tant qu'équipe. Mm-hmm. Ça, c'est beau à voir pour la suite des choses. Le conte de fées des Buffaloes est devenu un cauchemar samedi à Eugene, en Oregon. Comment expliquer ça, Stéphane? Une dégelée, une bonne rincée là, dans les règles de l'art. Là.
Une bonne grosse volée, 42-6, mais tu parles de cauchemar. Ça dépend pour qui, là? Écoute, pour Colorado, oui. Il y en a beaucoup qui voulaient les voir retomber sur terre. Moi, personnellement, c'est pas que j'ai haï, j'ai rien contre. Mais je suis quand même un peu content que ça remet les choses un peu en perspective. On se calme. C'est pas une équipe qui allait s'en aller au Natty, même pas en playoff. Le monde se sont imaginé un paquet de folie. Fait que c'est juste drôle de voir à quel point tu retombes du tapis volant, tu te pètes la gueule à terre.
Ça, c'est du monde qui ne check pas les lignes offensives et défensives. Je pensais que ça allait si loin.
C'est ça. Puis je pense que c'est Faf, la semaine passée, qui le soulignait. Faf, qui aime un peu s'auto-ridiculiser des fois. Mais qui a parlé de la ligne à l'attaque des Buffaloes la semaine passée?
Bien, depuis la première semaine.
C'est flagrant. C'est flagrant.
C'était pas chic. Puis c'était. En fait, c'est.
Tu savais que ça allait lâcher le château de cartes.
Exact, mais Sanders était capable de composer avec ça dans les cartes de ça. Mais là, tu as vu cette semaine que la défensive de l'autre côté était juste impardonnable. Puis
non, c'est
ça. Ça l'a pas fait. Là.
Écoute, 522 verges de gain pour les Ducks contre 199 pour Colorado. n'y a rien à dire de plus. Là. Quand tu domines à ce point-là au chapitre des verges, c'est normal que tu vas faire des points. Bo Nix qui a continué sa campagne pour le Heisman. À date, on n'a pas le choix de le mentionner. Wallet va être très heureux de ça.
Le fantôme de Bo Nix.
Hey, écoute, il va pouvoir dire, je vous l'avais dit, que ça arrivera un jour.
Après six ans.
Que ça a pris 6 ans, ça, c'est pas grave. Ça va être arrivé.
Avez-vous la statistique qui a sorti cette semaine comme quoi que Justin Herbert puis Bo Nix se sont affrontés au college football puis que Justin Herbert, c'est sa quatrième année dans la NFL.
C'est incroyable.
C'est assez incroyable, ouais.
Fait que, non, mais pour revenir à ça, ben écoute, Bo Nix encore 3 passes de toucher. Ça continue. Un touché au sol aussi. Là, ouais. Il est vraiment efficace dans toutes les facettes. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, à 36 ans, tu commences à comprendre la game. 240 verges au sol aussi, les Ducks. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas juste le show de Bo Nix. C'est une équipe qui me semble assez complète. C'est sûr que Faf va me dire qu'un jour ou l'autre, ils vont se planter. Il a connu cette agonie-là.
J'honore cette victoire-là parce que dans le groupe chat de Sport Lucide, Pierre-Luc, il disait, est-ce que c'est le bon vieux genre Docs qui chie dans la pelle cette semaine? Puis j'étais content de la performance au total. J'étais content de la prestance qu'ils ont eue dans ce match-là. Puis je me suis dit, OK, parfait. Mais là, après ça, je me suis dit, ouais, il affrontait quand même juste bien Colorado. Là, fait que faut se calmer les nerfs avec l'upset potentiel.
Oui, mais il y avait quand même une certaine pression au sens où tout le monde parlait que de Colorado. Les cotes d'écoute, ESPN sont comme bandés sur eux autres. Ça n'arrêtait plus. Écoute, puis tu regardes, tu parlais de la ligne à l'attaque. Shedeur Sanders qui a été victime de 7 sacks. Ce gars-là, là, à un moment donné, est-ce qu'il va prendre une business decision en vue du draft? Là? Est-ce qu'à la fin de l'année, il va dire, là, moi, je me calme un peu, j'arrête?
Vu que son père est le coach, ça peut être plus tricky comme call à faire.
Ouais, c'est sûr. Ça va dépendre de la position.
Il ne joue plus.
Ouais, c'est ça.
j'ai mal à l'épaule.
Va aller voir maman. Mais non, c'est ça. L'autre chose que j'ai remarqué dans le match pour les Ducks, 10 receveurs différents qui ont des catchs. Quand je parlais d'attaque équilibrée tantôt, c'est un autre exemple.
Ah oui, c'est clair.
Ça frappe de partout. C'est impressionnant. On ne peut pas parler de la défense d'Oregon. À chaque année, ça finit qu'à un moment donné, ils se font percer. Mais c'est quand même une belle démonstration, là, ce qu'on a vu cette semaine. Puis, tu sais, moi, ce match-là, c'est pour tous ceux aussi qui disent « Deion Sanders, il est mûr pour un gros programme. Il est mûr pour la NFL. Ça s'en vient. Préparez-vous. » On respire. Mm-hmm. On respire. Ça a ramené tout le monde sur Terre. C'est parfait comme ça. Je me répète, c'est rien contre Deion, c'est rien contre Colorado. Il ne faut pas oublier une chose, là. Dans ce groupe-là, il y a 7 partants à l'attaque qui viennent du transfer portal, puis 9 en défense. Mm-hmm. Tu ne bâtis pas une équipe comme ça dans la NFL.
Non, non.
C'est comme irréaliste. Tu n'arrives pas dans la NFL, puis bon, je recrute qui je veux, puis... Il a bien joué ses cartes, on va lui donner, là. Mais il y a encore du travail à faire, puis c'est diablement plus difficile plus tu montes de niveau. Donc,
puis comme ça me t'explique,
mais il y a du chemin à faire.
Il est capable de recruter les joueurs flashy, là, mais joueurs de ligne offensive, défensive, c'est un petit peu difficile. On en parlait la semaine dernière, puis ça va paraître de plus en plus dans les prochaines semaines quand tu affrontes des défensives un peu plus compétentes.
Ce match-là a été la preuve ultime de ce qui se disait dans les dernières semaines, tu sais, puis bon... C'était une belle victoire contre TCU, contre Colorado State, mais il reste que là, tu as frappé des hommes.
Ouais, puis je regardais leur horaire dans les prochaines semaines. Il y a une couple de gros os à manger. Il y a USC déjà la semaine prochaine qu'ils vont affronter. Puis plus tard dans la saison, ils finissent avec Washington State puis Utah en fin de saison. Donc,
au moins, USC ne sont pas capables de plaquer. Écoute, donc, ça peut être un méchant.
Un objectif réaliste pour eux autres, je pense qu'on peut dire que ça serait un bowl. Ouais. Ça serait déjà très beau. Là.
Oui. Ça serait 6 fois mieux que l'année passée.
C'est pas 1 et 11. Écoute. Un bowl, ça serait déjà fantastique.
Puis non seulement ça, il y a pas des rumeurs, mais on entend des histoires comme quoi qu'il y a des joueurs 5 étoiles qui veulent décommit de leur université pour aller jouer au Colorado. Donc, tu rajoutes des joueurs de qualité.
The future is bright, là.
La vraie, il faut se le dire, là, si Travis Hunter avait été là, Colorado aurait gagné par 50. On le sait.
Oui.
Oui, si c'était juste
ça. Alerte. Sarcasme.
Travis Hunter s'est bloqué.
Oui, c'est ça, exactement.
Peut tout faire, cette petite-là.
Il s'est bloqué. Yes. Donc, pour dans un autre match du top 25, en fait. Alabama affrontait Ole Miss. Alabama, 13e au pays, affrontait Ole Miss, qui était 15e. Bama se sont sortis avec la victoire par la marque de 24-10. Donc, évidemment, c'était un match qui était loin d'être parfait. On a vu du beau, on a vu du moins beau du côté d'Alabama. Commençant par la question du QB. Donc là, à l'heure actuelle, ce qu'on peut se dire, c'est que Jalen Milroe, c'est la meilleure option en tant que corps arrière pour le Crimson Tide.
Ou la moins pire.
Ou, exact. Ou la moins pire. Il n'est pas parfait. Il y a des lacunes côté précision, côté passe, qui est milieu de terrain aussi. Fait que ça devient facile de le défendre parce que si tu sais qu'il n'est pas précis, tu sais qu'il ne lancera pas au milieu de terrain, bien, je ne vais pas mettre de ressources à cet endroit-là. Donc, la seule chose qui l'avantage versus les autres, c'est surtout sa menace par les jambes. On sait qu'il est capable de courir, on sait qu'il est capable de créer quelque chose avec ses jambes ou de sortir de situations problématiques avec ses jambes. Donc, il a fini le match 17-21 pour 225 verges, qui est correct at best. C'est pas extraordinaire comme performance. C'est assez efficace pour faire gagner son équipe. Il a couru quelques fois, dont je disais tantôt, dont une course de 20 verges qui, un moment donné, a réussi à sortir son équipe là, de l'embarras à ce moment-là. Le jeu au sol s'est aussi enfin réveillé avec Chase McLellan, ça fait depuis deux semaines, je veux savoir comment dire son nom, mais ça, McLellan, qui a couru pour 105 verges, dont un touché. Donc ça, ça a fait du bien un peu parce qu'on sait que la ligue offensive de Bama, qui était supposée être leur plus grande force, s'est avérée jusqu'à date leur plus grande faiblesse, probablement. À la fin de la journée, défensivement, on a vu plus de beaux jeux. On a vu des sacs du corps, ce qui faisait longtemps que depuis le début de l'année, c'était un peu une lacune. 5 sacs du corps, surtout de plusieurs revirements. Donc, il y a eu un pic, il y a eu provoqué 2 fumbles. Ils n'ont pas recouvert, mais quand même, ça leur permet de créer des choses du côté défensif. Puis ça a aidé Bama avec le chemin le plus court. Donc, ça, c'est intéressant. Un peu moins sexy, ben Bama doit devenir plus efficace en red zone. Ils se sont retrouvés 5 fois en red zone. Ils ont scoré une fois, ils ont marqué 3 field goals, puis ils ont accordé un pick, ils ont lancé un pick. Milroe a lancé un pick à ce moment-là. Puis un fait cocasse, que ce que je disais tantôt à propos des revirements qu'ils ont créés, ben Bama a pris possession du ballon à la ligne de 1. Suite à un revirement, ils ont perdu 22 verges en 3 essais. En 4e essai, ils ont botté un field goal. Donc, c'est la première drive offensive de moins 22 verges qui amène à des points que j'ai vus de l'histoire de la NCAA. Donc, c'est vraiment pas souvent qu'on voit ce genre de choses-là. Évidemment, si on veut parler d'Ole Miss un peu, ben peut-être que si Lane Kiffin passait plus de temps à préparer son équipe que d'essayer de troller son ancien boss, ça serait efficace de son côté. L'équipe n'était pas là. Ils n'avaient pas l'air d'être à leur affaire. Ils ont eu leur chance en première demi. Ils ont eu des belles drives. Je pense à la deuxième drive, 75 verges, un majeur. Ça semblait rouler de leur côté. Bama semblait un petit peu déséquilibré, un peu perdu. Mais ils ont manqué complètement d'opportunités. Suivant cette drive-là, ils ont fait 3 fois des 3 and out, là, 3 essais plus un punt. Donc, tu ne peux pas réussir à battre Bama. Puis on a eu cette discussion-là de façon un peu troll hier soir, de façon un peu plus sérieuse avec Wallet, de dire, ben, tu sais, oui, Bama, c'est pas le powerhouse de top 1 qu'on a connu des 15 dernières années, mais ça reste une équipe solide du top 15 probablement, du top 10 probablement. Donc, évidemment, tu peux pas manquer d'opportunistes contre une équipe qui est aussi solide que ça. Tu vas finir par te tirer dans le pied.
Donc, moi, j'ai une question pour mes SEC boys.
on en a parlé il y a 2 semaines.
Ouais, mais on parle de tout le talent que Bama a. Est-ce qu'il y a un joueur offensif de Alabama cette année sur le roster, ben, ou un des partants, qui va être repêché dans la 2e ronde du repêchage? Parce que moi, j'en vois pas.
Je suis pas les mocks en ce moment. Il y a peut-être un O-line qui...
Un skill players. Un QB, running back, wide receiver.
En ce moment, je pense pas.
Il n'y a rien de ça.
On n'est plus dans l'ère Mac Jones, c'est clair.
Ouais. Il n'y a pas de Judy, il n'y a pas de Henry Ruggs.
Les porteurs qui ont été quand même une force des 10 dernières années.
C'est juste
qui flopent dans la NFL.
C'est des Jags, c'est just a guy. C'est comme juste des gars qui peuvent suivre le système. Ça me fascine que... Ça a comme été un peu instantané. Comme, tu sais, l'an passé, t'avais Bryce Young qui venait le bateau. Il y a pas longtemps, t'avais Mac Jones, t'avais Judy, t'avais tous ces gars-là.
Gibbs,
là, on dirait Gibbs. Mais Gibbs, c'est un transfert, fait que c'est peut-être un peu différent.
Je suis pas d'accord 100% avec ce que tu viens de dire, parce qu'on le voyait un peu l'an passé. Moi, j'avais l'impression que Bryce Young, il était tout seul. Puis c'était un peu la raison pour que Bama a eu des difficultés, puis qu'il aurait probablement dû gagner l'Heisman l'an dernier aussi, puis il l'a pas gagné parce qu'il n'y avait pas des stats incroyables.
J'ai hâte de voir la prochaine classe de recrutement de Bama. Aussi, il y a des gars derrière qui vont peut-être prendre le step.
Une coupe de gens,
cette année, de 2022 à 2023, ils ont eu leur meilleure classe à vie. Ouais. Donc, ils ont potentiellement beaucoup de joueurs, mais là, il faut que tu les retiennes, ces joueurs-là, parce que ça se peut qu'ils veulent partir puis aller à d'autres écoles
à
plus prestigieuses.
Yes. Donc, à la fin de la journée, ben, Bama a limité les pénalités. C'est une équipe. Ils ont battu une équipe legit du top 15. Là. Ole Miss, c'est pas non plus des pieds de céleri à la fin de la journée. Puis Ole Miss avait les vents dans les voiles depuis quelques semaines. Donc, rendu là, ben, ça a permis à Bama de set back, de se trouver une identité, de savoir c'est qui leur QB partant, puis de dire bon, ben, parfait, on va y aller avec Milrow, là, on va arrêter de faire ce petit carrousel-là
c'est
un peu.
C'est déjà un pas, là.
Oui, exact. C'est rassurant, mais en fait, c'est plus pour faire comme ouf, c'est plus pour genre, OK, on diminue la tension.
We don't know yet, so stop asking.
Classique.
Ouais, okay, du côté d'Ole Miss, Jackson Dart, moi, il m'avait quand même intrigué au début de la saison. Mm-hmm. J'ai trouvé ça tranquille pas mal. Là.
Ouais, 20 en 35, 244 verges, c'est pas une interception. Il n'y a rien provoqué de pertinent.
Il n'a pas été cherché plus pour m'impressionner. Au début, j'étais comme intrigué, là, mais bon.
Surtout qu'Ole Miss a un QB room assez impressionnant avec Spencer, Sanders, puis un transfert de LSU là, qui est un deuxième année. C'est quand même assez surprenant que Jackson Dart, comme tu dis, il explose pas, puis que coach Lane Kiffin ne veut pas essayer un autre joueur là, comme meneur de jeu.
Sanders, tu es un fils illégitime de Dion?
On ne le sait pas encore. Okay, on attend les résultats.
On attend les résultats.
Shedder, Dion Jr., Shillon Sanders, qui est corner aussi. Ouais. Ça fait pas mal de Sanders.
Hey, là, Spencer, ça rentre dans les S. Là, on serait correct. Ouais. Wallet nous disait la semaine dernière que le match le plus sous-estimé allait être Florida State contre Clemson parce que l'une des deux équipes n'était pas classée. On a eu tout un match à Clemson.
Wallet,
on dirait si tu es une machine, bref. Florida State, quatrième au pays, ont gagné à l'arraché en prolongation 31-24 contre Clemson, qui était on rank. Parle-moi de ce match-là.
Ouais, ça a été un match qui a été surprenamment dominé par Clemson, je te dirais, pour 75% du match. Les trois premiers quarts, là, c'était à l'avantage de Clemson. Il y a même eu un certain moment donné dans ce duel-là que Clemson menait par 10 points. Le upset alert, il se faisait aller du côté d'ESPN, comme quoi que Florida State, c'était pour tomber au combat sur la route. Je pense que le match a vraiment changé à la fin du troisième quart. Si je me rappelle bien, c'était le dernier jeu du troisième quart quand que le linebacker, Kellen Delosh, joueur de quatrième année, a créé le jeu du match. Un strip fumble qui recouvre pour un touché. Donc, j'ai regardé le match en condensé. Malheureusement. Puis, même en condensé, j'avais l'impression que le momentum a changé à ce moment-là. Dans la défaite, il faut que je parle quand même de lui. Je trouve que Cade Klubnik a quand même montré de belles choses. C'est un jeune corps arrière. Il est à sa première année comme partant. Il a joué quelques matchs l'an dernier, mais il nous montre quand même de belles choses. Puis, on parlait tantôt d'Alabama qui n'ont pas beaucoup d'options comme receveur, tight end, porteur de ballon. Clemson, c'est un peu le même son de cloche. Là. C'est Cade Klubnik. Against the world. Il n'y a pas beaucoup d'options. Puis
Shipley.
Quand même pas mais back. S'il est couvert, ça se limite à ça. Puis c'est sûr qu'il va l'écouter en fin de la saison. Là, je m'étais mis comme question ici. Là, est-ce que c'est la fin de la suprématie de Clemson et finalement le retour de Florida State? Ma réponse est fort probablement. À moins que Debo allume et que décide de mettre la main sur le transfer portal. Il faut que je parle aussi de Florida State, là, j'en ai parlé brièvement, mais encore une fois, une autre belle performance de Jordan Travis qui, sous les réflecteurs, tu regardes ça, tu dis « OK, 21-37, il complète un petit peu plus que 50% de ses passes, mais il est juste clutch au bon moment. » Puis c'est ça qui a fait la différence, il était capable de pousser le match en prolongation, puis en prolongation, il mène son équipe à une victoire. Florida State, tu regardes leur horaire d'ici la fin de la saison, beaucoup de gens se disent, OK, dans leurs quatre premières semaines, ils affrontent LSU puis Clemson. S'ils sont capables d'en gagner une là-dessus, ils sont à prendre au sérieux, bien là, ils ont gagné les deux, puis ils ont gagné leurs deux autres matchs. Le reste de leur saison est relativement facile. C'est vraiment une place en série à eux de perdre, selon moi.
Ben, avec 22 verges nettes de rushing yards, tu peux pas aspirer.
Ben,
ça
peux,
va leur...
Oui, mais ils évoluent dans la ACC, puis tu regardes le reste de leur match cette année. Là, il y a Duke, un peu sorti de nulle part, qui surprend un peu tout le monde, mais c'est pas Syracuse et c'est pas Boston College là, qui devrait être une grosse adversité là, au courant des prochaines semaines.
Ouais. C'est juste dur d'imaginer un club de la ACC en ce moment en série. Quand tu regardes les forces en présence, mais c'est pas qu'ils sont pas bons, là, mais ça va être le chemin va être quand même difficile, même s'ils ont du succès, parce que la
si
Big Ten est tellement forte cette année.
Mais s'ils sortent sans défaite dans leur schedule, je pense que ils vont, le débat va être vrai. On parle de la Big Ten entre Michigan, Ohio State, Penn State, c'est les trois qui ont une chance de finir avec 0 ou 1.
Ils vont s'auto-cannibaliser.
C'est ça, quand, parce qu'ils jouent tout contre. Fait. Ouais.
Une seule chose, par contre, dans la SEC, là, on a droppé la Coastal puis l'Atlantic. Fait que là, ça va être vraiment le 1 contre le 2. Donc, on va peut-être avoir un rematch Florida State-Clemson, puis peut-être que Clemson vont s'être…
Non, c'est UNC ou Miami. Mais moi, j'ai écouté le match au complet. Deloach, là, tu as parlé de son jeu, mais la game au complet. Ce gars-là est un stud, comme Kellen Deloach va être un nom à parler.
NFL, c'est un gars de quatrième année, donc.
C'est vraiment un très, très bon joueur défensif.
Yes. Donc, pour ma part, un gros duel dans la PAC 2.
Je suis le
back-to-back. LSU Arkansas.
Excuse-moi. Wallet, continue rapidement. Ouais, je t'excite, j'avais hâte.
On a son équipe.
Les Tigers ont eu chaud à la maison contre Arkansas. Il n'y aurait pas une fois que j'aurais pas voulu te pitcher LSU en dessous du bas. Je m'excuse d'avoir oublié des cris en dessous du bas. LSU, 12e au pays, excuse-moi, qui ont remporté ça 34-31 contre Arkansas. Vas-y, mon vieux.
Encore une fois, une grosse performance de Jaden Daniels qui termine ce match-là avec 320 verges de toucher, mais surtout 320 verges, pardon, mais surtout 4 passes de toucher. Moi, ce qui m'a vraiment aussi impressionné, on en parle souvent, là, les corps arrière qui sont en mesure de faire des lectures au premier, deuxième, troisième degré, puis trouver plusieurs receveurs sur le terrain. Dans le cas de Jaden Daniels, on ne se casse pas la tête. Tu regardes à droite, OK, Malik Nabor est couvert. Oh, Brian Thomas est ouvert de l'autre côté. Ça termine un match avec deux gars qui ont plus de 130 verges chacun, 2 touchés chaque. LSU, on va en parler plus tard dans nos matchs de la semaine. LSU, c'est une équipe qui, bizarrement, sont vraiment bons offensivement. Leur défensive, c'est leur lacune. Puis c'est pour ça qu'Arkansas sont restés dans ce match-là. Puis c'est bizarre parce que c'est une équipe qui, depuis toujours, joue du bon vieux power football, qu'on run la balle puis qu'on est fort en défensive cette année.
C'est plus tellement DBU là, en ce moment.
Non, DBU, il a pris le bord.
C'est fini, ça.
QBU, peut-être, on ne sait pas. Mais au final, t'as beau en rire, Faf. Mais a win is a win is a win is a win. On va la prendre. C'est une victoire dans la SEC West. On reste au sommet. Le reste de la saison ne sera pas facile, mais même si leur défensive reste un peu poireuse, on va espérer là, que les choses se rétablissent dans les prochaines semaines.
Moi, j'ai pas vu beaucoup de LSU cette année. Malik Nabors, j'ai vu du top 10 mock draft. Buy it? Sell it?
Difficile à dire.
Es-tu si bon que ça?
Il est très, très bon. Mais dans la NFL d'aujourd'hui, puis on en parle souvent, ça va passer par, il y a des corps arrière qui vont sortir trop haut, t'as des joueurs de ligne qui méritent d'être là, qui vont sortir, les receveurs de passe, t'en as une poignée de bons là, qui sort
tu
en fin.
Tu peux en trouver deux, troisième ronde beaucoup maintenant.
Puis il n'y a pas l'explosivité qu'on a vue d'un Justin Jefferson, d'un Jamar Chase. Il est comme…
Tu viens d'en nommer quand même deux très bons.
Très bons.
Ça veut pas dire qu'il… Parce qu'il n'est pas à ce niveau-là, qu'il ne peut pas sortir en première ronde.
Non, mais effectivement, mais je ne le vois pas sur le terrain aussi dominant. Je le vois quasiment dominant comme la bonne année de Keyshawn Boutte, qui était un one-year wonder pour lui.
Sixième ronde des Pats.
Puis en fantasy, il ne donne aucun point. Donc,
je sais qu'on est sur les prix dans toutes mes poules.
Donc, c'est peut-être un petit peu vite, là, Dion. C'est vrai que c'est un
top 10.
Right, donc comme je disais précédemment, pour ma part, un gros duel dans la PAC 2. On a Wazoo, 21e au pays, qui ont créé l'upset contre Oregon State, 14e au pays, 38-35. Donc, c'est la deuxième victoire en trois semaines pour Washington State, qui ont tenu le coup pour se sauver avec la victoire. En fait, deuxième victoire en trois semaines contre une équipe, excuse-moi, qui était classée. Wallet... vas-tu retourner à tes premiers amours avec Washington State qui
on
est en train
jamais,
de.
On sait jamais.
On sait jamais. Hein, on sait jamais.
Il y a toujours le téléphone, il est toujours ouvert. Les DMs.
Donc, pour Oiseau, on a vu que Cameron Ward, c'est le real deal. Il a complété 28 de ses 34 passes pour 404 verges et 4 touchés. C'est quasiment. Puis en plus d'une course pour 6 points, donc c'est presque aussi impressionnant que ce que toi as fait avec les Dolphins ce dimanche. Presque aussi impressionnant. Donc 400 verges, c'est vraiment exceptionnel. Compléter vraiment beaucoup de passes, puis 4 touchés, c'est vraiment incroyable, honnêtement. Donc Ward a 13 passes de toucher depuis le début de la saison. Puis là, je m'adresse à vous, messieurs. Complète 75% de ses passes. Il n'a toujours pas lancé une interception. And yet, on parle de Heward, de Hartman, de Travis pour le Heisman, mais on parle pas de Cameron Ward. Il n'est même pas dans le top 10, alors que j'ai regardé aujourd'hui pendant que je me préparais. ce gars-là, pour l'instant, c'est un des meilleurs QB de la ligue. Là, je veux dire.
C'est une question de logo.
Ouais, ça c'est clair, mais. Clairement.
Il n'y a pas un saut assez rouge pour la ligue.
Il n'y a pas un logo rouge, assez... Pas assez rouge. Puis le logo, il y a des W, des S, il n'y a pas de
ouais, zouzouzouzou. Donc, en tout cas, c'est étrange, mais ça reste quand même que pour l'instant, avec 13 passes de toucher, 75% de ses passes complétées, je vois pas comment on peut l'ignorer encore bien, bien longtemps. Offensivement, tout roule pour eux. 105 verges cette semaine, c'est. Ça s'ajoute aux deux autres matchs de plus de 500 verges qu'ils ont depuis le début de la saison. Total de 3 matchs sur 4 qui ont scoré plus que 500 verges. Ils ont 30 points par match. Donc, ils vont être un problème dans la Pac-12 à court, moyen ou long terme. C'est sûr et certain, ils vont créer quelque chose. C'est sûr qu'ils vont, ils vont être capables de brouiller les cartes pour ce qui se passe au top. Ils n'étaient pas vus au début là, de la saison dans ce top-là. Puis, on n'a pas le choix de les considérer. Kyle Williams... les deux receveurs de passe, 174 verges, un touché. Josh Kelly, 159 verges pour 3 touchés. Puis, ça a fait le spectacle pour les Cooks, honnêtement. Là, à coup de one and catch pour Kelly, il a connu deux, trois gros one and catch. Il a connu une game de highlight à lui tout seul. S'il fait un highlight pour la NFL, là, il met ça sur un petit CD puis il envoie ça aux équipes. C'est sûr qu'il prend ce match-là. Puis, mais Josh Kelly a connu toute une performance. Il était impressionnant, il était athlétique. C'était vraiment beau à le voir aller sur le terrain. Du côté de Oregon State, ben, il y a plusieurs points d'interrogation, surtout au niveau de la défensive, parce que le score final, ça ne représente pas du tout le match, parce qu'après trois quarts, c'était 35-14 pour les Cougs. C'était concrètement un premier gros test pour Oregon State, puis c'est de... Ils étaient vus depuis le début de la saison comme étant un peu des dark horse là, au niveau de la Pac-12 en disant ah, ils vont créer la surprise, ils affrontent des grosses équipes, mais d'après moi, ils vont être capables de créer des choses, ils vont être capables de faire des upsets. Puis ben, il va falloir vraiment qu'ils se réajustent défensivement s'ils veulent pouvoir arriver à être ce fameux Dark Horse-là. Salut Bruno, au passage. Dark Horse, Work Horse.
C'est Work Horse.
côté offensif, ils ont réussi à bien courir le ballon, presque 250 verges par la course, 101 verges par DeSean Fenwick. Il a bien paru, somme toute, mais... Vraiment, l'histoire du match pour Oregon State. En fait, la pas histoire du match, ça a été DJ Uiagalelei qui doit définitivement en faire plus pour
c'était
cette équipe-là.
C'était vraiment amélioré sur ce nom-là.
Ça fait pas 2 ans qu'on dit ça. Je me rappelle que quand Trevor Lawrence est parti de Clemson, on se disait il y a quand même un successeur important qui
incroyable.
Est là, il va se produire des choses.
Ouais.
Ça n'a jamais levé. Ah,
il est transféré, puis ça ne s'est jamais levé.
Le même passeur. Comme c'est pas le bras que Trevor Lawrence avait.
Puis le plus, c'est que dans les deux matchs qu'il avait joué.
Ah oui, il avait l'air d'un ding successeur, pour vrai. Là.
Il y a vraiment eu deux matchs.
C'était intriguant, ça nous allumait.
2,45, c'est un monstre, il ne sera jamais détruit.
Non.
Il a terminé la journée avec à peine 50% de ses passes complétées, moins de 200 verges. C'est beaucoup trop peu pour... ce qu'on s'attendait de lui d'être là, à ce moment-là. Donc, ça fait un peu le tour pour ce match-là. Les Cougs qui ont un uniforme fucking let.
Ça prendrait un gars qui tripe sur Alabama puis qui aime les Ducks d'Oregon.
Hey, non, mais c'était gris puis blanc. C'était plate, non? Toi, t'as trippé sur
comme
ça.
Comme Bama, calé.
Ben,
c'est gris puis rouge. Pis
ben oui,
rien,
mais
là.
Je sais pas. Je les ai regardés puis je trippais pas.
C'était clean. C'est un pantalon blanc en plus.
En tout cas, c'est pas Oregon. Oregon, c'est plus flashy que ça.
Ouais, leur gros vert. Là.
Hein, ouais. Hey, belle, ma capsquette, arrête. Donc, bref, la Pac-12 est de loin la ligue la plus intrigante de 2023. Ouais, Steph, parle-moi d'un
c'est
autre.
C'est même pas des jokes, le pire. Hein?
Non,
ah non.
C'est mieux que la SEC présentement.
Il y a une année que ça aurait pu être une bonne joke.
Non, non.
Quand
puis
même,
là, la joke, c'est que c'est leur dernière saison.
C'est triste. Mais c'est vrai que cette année, c'est vraiment une conférence à suivre.
Yes. Un autre duel dans le top 25, Steph. Utah, 11e au pays, ont réussi à remporter ça contre UCLA dans un match. Est-ce que c'était fort défensivement ou c'était peu productif offensivement? 14-7 contre UCLA.
C'est un peu des deux, évidemment, mais je pense que Utah montre que leur défense est legit. Là. Il y a 3 séquences moi, dans ce match-là qui ont retenu mon attention du côté de Utah en défense. Le pick six, premier jeu du match.
Ouais.
Pick six, Kareem Reed. Écoute, ça commence très mal pour UCLA. Là, tu te dis, ça peut arriver, c'est une bad luck, on recommence tout. Non. Troisième quart, UCLA a le ballon dans le red zone. Fumble de leur côté, donc un autre gros jeu de la défense des Utes. Là, on est à 2. Puis la troisième fois, tu sais, UCLA a le ballon en fin de match. Ils ont la chance d'égaliser la marque. C'est 14-7 en faveur de Utah à ce moment-là. Ils subissent 3 sacs du corps.
Back-à-back-à-back.
3 des 7 sacs du corps de Utah dans cette drive finale-là. Moi, ça m'en dit long sur c'est quoi cette défense-là. Ils se lèvent dans les grands moments. T'sais, au 3e quart dans le red zone. Au 4e quart, la drive finale. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de ce match-là parce que c'est pas éclatant. On ne sortira pas 56 stats offensives exceptionnelles. C'est pas arrivé. Mais la défensive de Utah qui montre qu'elle peut jouer avec les grands garçons. Il n'y a pas eu d'attaque, évidemment, du côté de Utah. C'est ça qui va les tuer à un moment donné en bout de ligne. T'sais, là, son coup à son 10e à peu près en ce moment. Ils n'iront jamais 11. Plus haut que ça. Ouais. Là, parce qu'ils n'ont pas d'attaque. Il faut dire que Cam Rising n'était pas là, le corps arrière. Bon, ça les aide certainement pas. Mais même à ça, ils ont eu quoi 2,1 verges par portée. Même au niveau du jeu au sol, ça ne produit pas. C'est ce qui va les limiter en bout de ligne. Mais quand même, un beau match défensif. Il faut souligner des fois, ces bonhommes-là n'ont pas souvent le mérite, le crédit qu'ils méritent. Fait que c'est une victoire signée toute défensive du côté de Utah.
Yes. Finalement, Dion, on a l'impression qu'Ohio State a enfin trouvé son air d'aller. C'est une bonne nouvelle pour la suite des choses. Mais pendant ce temps-là, un des rivaux principaux semble extrêmement bien rodé. J'en parlais au début de l'année, je suis tellement fier de ce call-là. Mais parle-moi de Penn State. Penn State, 7e au pays, qui ont remporté ça par la marque de 31-0 contre Iowa, qui est une équipe classée qui était 24e au pays à l'époque.
Wallet, pourquoi tu m'as donné cette crise de game-là?
Je veux juste que tu nous parles de Penn State et que tu nous dises que c'est une menace pour Ohio State.
Tu peux nous parler d'Iowa aussi, ça sera
pas facile.
Ça se peut que je parle d'Iowa.
Ça va être plus drôle.
Donc, Penn State est bon. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Comme ils ont un très bon début de saison, Drew Allard, le carrière, fait un très bon job. Keandre Lambert-Smith, un receveur qui est très, très potable. Il y a des armes à tous les niveaux chez Penn State. C'est vraiment une équipe très complète. Je dirais juste à voir à quel point ils peuvent compétitionner au haut niveau, gagner les grosses games. Ils ont été quand même un petit peu de tendance à faire les erreurs, les mauvaises erreurs au mauvais moment dans les games contre Michigan et Ohio State, qui sont leurs deux plus gros rivaux. Donc, ça reste à voir. Si on regarde le restant de leur horaire, ils vont jouer contre Northwestern. C'est pas vraiment inquiétant. UMass, Ohio State le 21 octobre, c'est vraiment le next checkpoint, si on veut. Les deux ont vraiment se préparé pour ça. Fait qu'ils vont vouloir progresser jusque-là, mais c'est très encourageant pour l'instant. Mais on va parler d'Iowa, parce que ça, c'est juste beaucoup plus drôle. Je sais pas si vous avez parlé dans le podcast depuis le début de l'année, mais le head coach de Iowa, Kirk Ferentz, a un fils qui est le coordinateur offensif. Il a signé un contrat révisé cette année. Parce qu'il a vu que Iowa ont une offensive carrément inepte depuis des années. Il a comme fait signer un contrat avec des incentives, ce qu'on appelle, comme des motivations à performer. Et dans le fond, je pense que le contrat, je ne me trompe pas, c'était scorer 25 points par game en moyenne pendant l'année.
7 victoires, ça se peut-tu?
Je ne savais pas que les victoires étaient là. Ouais. Mais 25 points par game pour l'offensive était l'incentif principal du contrat. Donc, si on regarde un petit peu le début d'année de Iowa, 24 premières games contre Utah State, c'est correct, mais ce n'est pas si bon que ça. Tu
n'attends pas ton 25.
20 à la deuxième, 41 à la troisième contre Western Michigan, puis là, ils font un beau zéro. Mais c'est un zéro qui est assez fascinant pour cette partie-là. Donc, shout-out à Josh Pate du podcast Late Kick, qui est un très bon podcast américain, si vous appréciez le college football. Penn State ont roulé plus de jeux que Iowa ont eu de verges.
Oh.
92 jeux pour Penn State, wow. 76 verges totales pour Iowa.
C'est fascinant.
1 en 9, third down, 20 au sol, 56 par la passe. C'est une des games les plus ineptes que j'ai vues de toute ma vie au niveau offensif. 4 fumbles perdus pour Iowa. Ça c'est vraiment un problème. Là. Ça va pratiquer les fondamentaux en pratique cette semaine, je pense. Là. Toc la balle, là, ça va être pratiqué.
Même les Broncos se sont pas fait rincer de main. Puis pourtant,
ouais. Ils ont plus de turnover que les Vikings.
Ah, un match.
Ouais. Temps de possession, 45 versus 14. Je pense que la défensive de Iowa a eu beaucoup de glace à mettre sur leurs jambes ou sur leurs pads. Mais ouais, fait que je pense que là, s'il veut atteindre son 25 points par game pour l'année, il y a du rattrapage. Là, parce que zéro, ça fait baisser ta moyenne pas pire.
Tu es en train de nous dire que quand Iowa a le ballon, oui, dans les prochaines semaines, on est mieux d'aller racler.
Oui, rock tes feuilles.
On manquera rien.
Rock tes feuilles.
Même s'il n'y en a pas qui ont tombé encore.
Non, mais ce n'est pas grave. On peut se pratiquer à racler en prévision d'eux. C'est préventif. Là, je veux dire, il n'y a rien à manquer de ça.
Ouais. Le carrière Cade McNamara, qui était un ancien de Michigan, il y avait l'espoir qu'il prenne cette performance. Il avait quand même eu des bons moments à Michigan. 5-14, 42 verges, c'est absolument rien.
Bizarrement, il est quand même à 21,5.
T'as 21,5 de moyenne?
Ouais.
On verra pour le futur.
T'as se demandé comment il était 24e au pays à ce moment-là. Là.
Il est un peu de bias.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la première fois en direct, notre premier segment Out of the Box.
Wouhou!
On peut faire ce qu'on veut. On est en direct. La soirée nous appartient. Un gros mandi. Yes, donc pour le segment Out of the Box, on revient avec le traditionnel segment crypto. En tant que bons millennials, on fait le tour des équipes du top 15 et on dit si on achète la crypto-monnaie de cette équipe-là ou si on vend. Pour leur chance en éliminatoire. Donc, est-ce que ces équipes-là ont une chance de percer le top 4 là, pour la fin de la saison? Parce qu'on n'est pas encore dans un college football à 12. On va commencer ça avec Georgia bien rapidement. Stéphane, je suis curieux de t'entendre sur toi. Georgia, vont-ils finir dans le top 4 ou pas? T'achètes ou tu vends?
Il avait prévu celle-là.
Revelation. Sans les guns, sans la chaîne du marathonien.
Si je t'aboute.
J'ai déjà hâte à la finale de la SEC en décembre.
C'était juste pour le kick, parce que vous savez que j'ai eu du fun dernièrement. Je suis allé voir Mathieu Bergeron avec les Falcons, puis j'ai fait un petit saut à Georgia le samedi. Je me suis acheté ça. Paniquez pas, là, c'est pas mon équipe. Mais j'achète. Juste pour répondre à ta question, avec un peu de couleur, regarde. Il y a des matchs intrigants au calendrier prochainement. Là, Florida, qui a quand même montré des belles choses dernièrement. Mizzou. Mais je pense pas que Mizzou va aller battre non plus Georgia. T'as Ole Miss, t'as Tennessee. Mais non, j'achète. Là. L'histoire, on s'en parlait là, dans le groupe cette semaine, on rigolait un peu. Mais Georgia, à la même date l'an passé, il y avait certains matchs pas trop convaincants. On se demandait, ouais, là, ils torchent pas comme ils devraient se torcher.
C'était justement contre Mizzou puis Kent State qui avait eu de la misère. Tout le monde disait.
Ça. Là, bon, ils gagnent par 10 points, ils gagnent par 15 points. C'est pas normal, ça devrait être 30-40, puis ça devrait être des volées. Puis là, moi, je me rappelle, on fait un comité des sages, moi, que j'aime appeler. Ensemble, les gars, on fait notre propre AP poll, si on veut. Et puis, je laissais Georgia en 1. Puis là, j'écoutais votre show. Et puis, à chaque fois, je me disais, oh boy, ils vont vouloir me jeter dehors à couper dans le derrière.
Mais ils ne savent pas pour qui tu...
J'envoie ça juste à Wallet, parce que Wallet nous dit souvent, envoyez-moi à moi pour ne pas s'auto-influencer entre nous autres. Puis c'est bien, c'est correct comme ça. Mais je laissais Georgia 1 l'an passé, un peu dans la même situation qu'ils sont en ce moment. Puis je me disais, jusqu'à preuve du contraire, c'est les champions. Une saison, tu ne gagnes jamais tous tes matchs par 40 points. Moi, j'achète. Je fais confiance au fait que quand ça va être les grosses games, ils vont sortir leur meilleur football. Peut-être que je vais me planter. Mais l'an passé, ça m'a servi. Je vais rester sur les bases solides qui m'ont servi.
C'est bon. J'aime la réponse. Puis, c'était pas prévu que je t'envoie, Georgia, mais le stun avec le chandail, c'est fucking sérieux.
Hey, j'avais-tu hâte, tu penses?
10 sur 10. T'avais chaud, tu es, je me demandais.
Qu'est-ce qu'il fait quand t'as watché?
C'est pour ça que tu dis garder l'eau.
Je peux pas faire. Non, mais tu sais, si je l'avais fait tantôt devant mon burger, vous auriez dit, t'aurais dû faire ça pendant le show.
C'est correct, tu l'as fait, puis c'est bien apprécié. Du côté de Michigan, présentement, deuxième, je vais t'envoyer la question parce que je t'ai dit que dans mon top 12 perso, je les ai mis en avant d'Ohio State, pardon, même si j'avais mis Ohio State dans mon top 4, tu avais dit que tu trouvais ça fair. Est-ce que Michigan ont leur place dans le top 4 de fin de saison?
Oui, absolument. Comme, c'est sûr qu'ils n'ont pas joué personne encore. Fait que c'est encore trop dur à dire, mais comme avec ce qu'ils ont montré, je pense que tu peux acheter. Il n'y a eu aucune game qui était vraiment comme… Oh, là, sont proches de perdre. Quand il y a eu comme des premières demi, que c'était pas 100% dominant, mais je pense qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de sortir tout ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont peut-être même pas la motivation à sortir tout ce qu'ils ont besoin. Puis leurs joueurs sont peut-être pas encore carrément hype pour battre justement Ohio State ou Penn State ou Michigan State, des équipes vraiment plus rivales. Fait que pour l'instant, pas le choix d'acheter, mais il y a encore comme trop d'inconnus. Comme c'est vraiment une des équipes du top 10 qu'il y a encore le plus d'inconnus. On n'a pas vraiment vu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire contre une bonne équipe. Comme tous ceux qui sont en bas ou à peu près, à part peut-être Penn State, ont eu une espèce de test qui a démontré quelque chose. Michigan n'en a pas encore eu. Mais il n'y a rien qui me dit qu'ils sont faibles non plus. Donc, pas le choix d'acheter de façon conservatrice, si on veut.
All right, c'est bon, on achète Michigan. Mm-hmm. Toi, de ton côté?
Oui, mais ça comme réponse.
Texas au troisième. T'es achètes-tu ou t'es...
Je pense que t'es obligé, Faf. Je trouve ça dur. Hein? La raison pour laquelle je dis ça, c'est que... On disait avant le début de la saison que la Big 12, en général, c'était une ligue qui nous intriguait, qui pourrait être le fun. Puis, c'est la Pac-12 qui est devenue comme ça. La Big 12, on regarde les équipes, on dit « Ouais, peut-être un petit peu moins bonne qu'on l'aurait cru. » Texas, ils ont une grosse victoire contre Alabama. Puis, plus qu'Alabama gagne, puis que Texas continue de gagner, je vois pas un monde dans lequel ils font pas une série s'ils sont invaincus. Puis, je vois pas un monde dans lequel ils perdent. Ils vont avoir des tests ici et là, naturellement, bizarrement. Ben, naturellement, contre Oklahoma, bizarrement, contre Kansas la semaine prochaine. Mais je m'attends à ce que ce soit une équipe qui sorte forte semaine après semaine. On dirait que coach Sarkisian a vraiment le contrôle sur son équipe. Puis, comme que je dis, le plus gros avantage pour eux d'ici la fin de la saison, c'est le fait qu'Alabama vont continuer de bien jouer, puis ça va les faire bien paraître. Tu remportes la Big 12 puis que ton nom, c'est Texas. Tu as beaucoup d'argent. ESPN vont te mettre en série.
C'est clair. Je vais me poser la question, est-ce que j'achète ou je vends Ohio State? Puis honnêtement, au début, à chaque fois que contre Youngstown State, et s'il perdait 7-0, tu étais comme, on crisse tout ça au vidange, c'est de la merde, on fait ça dans les fenêtres.
La première game de la saison, j'ai dit, la saison est finie. On est 23-3 contre Indiana. Il n'y a plus absolument aucun espoir pour cette équipe de torchons-là.
C'est clair, mais je me suis concentré au niveau défensif. Accorder 3 points, 7 points, 10 points, 14 points, puis contre Notre-Dame, qui n'est pas une équipe de pied de céleri à la fin de la journée. Je trouvais ça super pertinent ce que tu disais tantôt dans ton analyse du match. Ils ont présentement forgé leur identité comme étant au niveau défensif. Puis on l'a dit, sauf dans la NCAA, Defense Wins Championship. Mais année après année, déjà depuis les deux dernières années, Georgia ont eu des défensives extrêmement dominantes en College Football Playoff. Donc, non seulement, je vais profiter pour pitcher mon hot take là-dedans, j'achète du Ohio State, mais j'achète pour s'ils finissent pas dans le top 1. Ils vont se rendre jusqu'à la fin probablement. Avec la défensive qu'ils démontrent jusqu'à maintenant, je vois pas comment ils peuvent perdre, même si leur offensive est un petit peu plus au slow-mo. On dirait que la défensive est au bon. J'espère juste qu'ils n'ont pas piqué trop tôt dans la saison, mais je pense que s'ils sont capables de garder le même pace puis d'accorder maximum 14 points par match, ils vont être capables d'en scorer 17 par match puis ils vont gagner des matchs jusqu'à la fin de la saison. Fait que, rendu là, je pense que ça peut être payant pour eux. Fait que oui, j'achète les Buckeyes à ce niveau-là Les Noix d'Ohio State. Si on va avec Florida State, Steph, je vais t'entendre là-dessus. Moi, personnellement, j'aurais dû vendre il y a deux semaines, mais il n'y avait pas d'acheteur. Florida State, pour finir dans le top 4 ou se rendre en playoff, t'achètes ou tu vends?
Écoute, je pense que tout bon investisseur doit vendre maintenant, sa presse. Je pense qu'ils peuvent finir 5e, 6e, mais les quatre équipes qu'on vient de nommer, là, Florida State, accote pas ça. Ça fait deux fois là, qu'ils jouent avec le feu. C'est pas juste cette semaine contre Clemson. Rappelle-toi que la semaine d'avant, c'était encore pire contre Boston College. Mm-hmm. Ça aurait été un scandale. Ils seraient droppés pas à peu près. Tôt ou tard, on sent que ça va péter. Je sais pas. Il y a Duke, il y a Miami d'ici la fin de l'année. Bon, il y a pire comme calendrier, mais c'est quand même des tests importants. Moi, je pense que c'est le moment de vendre. La seule façon de se faufiler en série dans le top 4, dans leur cas, c'est de vraiment de rester invaincu jusqu'à la fin de l'année et que quelqu'un trébuche en avant. Ce que je pense pas, là, pour toutes les raisons qu'on vient
mais
de
dire. Mais c'est probablement l'équipe qui a le parcours le plus facile. Il y a Georgia, mais tu regardes les autres équipes, ça va être un petit peu plus.
C'est ça. T'sais, je nommais Duke, Miami. C'est des bons tests, mais c'est pas non plus. C'est pas la fin du monde. Là.
C'est pas Penn State, Michigan.
Non,
c'est pas.
C'est ça. C'est pas le calendrier des autres. Là. Mais je sais pas. Quand tu vois un club jouer avec le feu de même, là, moi, c'est Boston College surtout qui m'a Clemson, c'est une chose, là, parce que Clemson a quand même une réputation, une notoriété dans les dernières années, même si c'est plus ce que c'était. Il reste que peut-être que certains joueurs arrivent là, sont intimidés. Mais Boston College, il n'y avait aucune raison de gagner.
On en parlait la semaine passée. Je pense qu'en 7 ans, on n'a jamais parlé de Boston College. Et puis là, il fallait en parler.
Matt Ryan, en fait, en 2008.
Surprenamment, dans le AP poll de cette semaine, Florida State ont eu 3 votes pour la première équipe au pays. Versus, mettons, Ohio State qui en a eu 1, Texas qui en a eu 2, puis Michigan 1. Florida State ont eu 3 votes comme top 1.
Je me l'explique mal. Non. Personnellement, là, je respecte les votes de tout un chacun.
De la Floride.
Écoute, je vois pas comment. Là, parce que
mais c'est ce qui m'a le plus surpris.
Pour répondre à la question, je vends. C'est le moment.
Parfait. Bon, on va te ramener une équipe de la Big Ten. On va la crisser en face. Penn State. Au début de l'année, j'ai dit que j'étais hype sur eux. J'ai dit que je croyais en ce qu'ils allaient être capables de faire, qu'ils allaient peut-être créer la surprise et aller brouiller les cartes un peu sur les saints sacrés Ohio State. Est-ce que Penn State, présentement, t'ajette où tu vends pour finir dans le top 4?
Il faut que je vende pour le top 4, vraiment. Juste pour la logique de la Big Ten. Comme, faut qu'ils battent les deux clubs en haut. Puis je pense pas qu'ils sont encore là. Comme malheureux, ben, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Puis l'année nous le dira. Dans 3 semaines, on va savoir s'ils peuvent battre Ohio State. Mais on dirait qu'il leur manque tout le temps un petit quelque chose. Penn State, c'est une bonne équipe. Tu peux pas arriver endormi contre eux. Tu vas te faire exploser. Il faut vraiment que tu prennes au sérieux. C'est tout à leur honneur. Mais il leur manque le clutch factor depuis quelques années maintenant. Il avait battu Ohio State, ça fait quand même un petit bout là, sur un block kick, je m'en rappelle depuis quand même longtemps.
Des cauchemars.
Comme c'était, ouais, j'ai des cauchemars encore. Mais depuis ce temps-là, on dirait qu'ils n'ont jamais fait qu'est-ce qu'il fallait pour aller au-dessus de Michigan Ohio State. Fait que pour le top 4, je vendrais. Je pense que peut-être l'année prochaine, peut-être être leur année un petit peu plus. C'est là, c'est Drew Allar qui va être leur QB pour la deuxième année. Je pense qu'ils vont être là, mais cette année, je pense qu'ils vont. Ils devraient finir dans le top 12 jusqu'à la fin de l'année, mais pour le top 4, je pense pas que je peux acheter.
All right. Je vais t'envoyer Washington, puis je vais me garder USC, je m'excuse, mais Washington, c'est tes rivaux d'État avec ton Washington State. Washington, présentement, qui.
C'est l'équipe dont personne ne parle.
Michael Penis, là.
Junior.
Junior. J'aimerais être le junior. Senior. Ouais. Mais Washington, t'achètes ou tu vends?
Qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le classement du AP poll, t'as Washington 7e, USC 8e, Oregon 9e, Utah 10e. T'as 4 équipes back-à-back de la Pac-12.
Incroyable.
Du jamais vu.
On s'attendait pas ça au début de la saison.
Mais comme Dio vient de dire, c'est comme l'assassin silencieux. C'est celui qu'on ne parle pas, puis c'est celui qui... J'ai regardé les highlights cette semaine. J'ai pas pu regarder le match. Ils sont vraiment dominants des deux côtés du ballon. Michael Penix, on rit de son nom, là, mais vraiment, faire le transfert de Indiana vers Washington, ça a été un phoenix qui renaît de ses cendres. Une carrière exceptionnelle avec les Huskies. Moi, si j'avais à choisir, avec ces 4 équipes-là que je viens de nommer, ça va être une de ces 4-là qui va gagner la Pac-12. Je pense que ça va jouer entre Washington et Oregon. Puis Oregon, ils choke. Année après année, je suis obligé d'y aller avec les Huskies, j'achète. Puis je les avais mis dans mon top 4, donc ça va bien me faire paraître à la fin de la saison.
Est-ce que tu as peur que Michel Fallus Jr. se blesse?
Bon,
ça
non.
Ça a été souvent le cas.
J'aime le fait que tu poses la question pour plugger son nom de façon aussi poétique.
Francophile.
Francophile poétique. Écoute, l'équation se pose pour la majorité des équipes qu'on vient de nommer, à l'exception d'une ou deux équipes là, qui ont peut-être un backup. Mais c'est vrai que Michael Penix,
il y a un historique.
Il y a un historique de blessure.
C'est la seule chose qui me fait peur, parce que je t'avais dit, je me rappelle, on s'écrivait en début de saison, on se faisait des top 25 avant de faire nos top 10, top 12 à chaque semaine. Je t'avais dit, je sais pas, je suis très high sur Washington, mais c'est... Moi, dans ma tête, c'est le facteur à surveiller.
La blessure.
C'est quand même arrivé souvent par le passé.
C'est sûr qu'il avait coulé Indiana avant son transfert. C'est un bon point, mais j'essaie de rester positif.
Ouais.
Je veux que mon top 4 paraisse bien à la fin de la saison. Donc, j'y vais avec Washington. J'achète gros.
All right. Je vais me lancer USC, qui est présentement 8e au pays. Une autre équipe de la Saint-Sacro Pac-12. présentement, quand je regarde les statistiques, je trouve ça impressionnant qu'ils soient capables de pile up un équivalent de 55 points par game depuis le début de la saison. Caleb Williams, tout feu, tout flamme, 1200 verges à date, 75% de passes complétées, c'est exceptionnel. 15 touchés, aucun interception. Mais quand je nomme ces statistiques-là, ça me fait un petit peu penser à l'autre QB que je vous parlais tantôt au niveau de Washington State, donc Cameron Ward. À ce moment-là, j'ai pas de doute sur l'offensive de USC. Par contre, quand je regarde leurs prestations défensives, là, je me pose un gros point d'interrogation. Comment tu peux accorder 28 points à San Jose State? Je ne savais même pas qu'il y avait une équipe. Comment tu peux accorder 28 points à Arizona State, qui ne sont pas supposés être une équipe qui est très prolifique à ce niveau-là? 14 points à Nevada. Donc, je me dis, OK, est-ce que j'achète ou je vends pour qu'ils se rendent dans le top 4? D'ici la fin de la saison, on va affronter Notre-Dame, Utah, Washington puis Oregon. Toutes des powerhouses du Pac-12.
Colorado,
ouais, ça, on n'en parle plus. Ils sont rendus. Okay. Sont-ils rendus on rank, là? Ils sont fait crissant dans le top 25, c'est bon.
Je pense qu'ils sont même pas franches.
Fait que, tu sais, ils ont quand même des gros tests qui s'en viennent. Puis s'ils sont capables d'accorder 28 points, oui, ils vont toujours être capables d'en marquer 50. Là, mais juste que tu vas prendre une équipe qui, offensivement, est capable d'en produire des points. D'après moi, ils vont peut-être manger leur pain noir plus vite que tard, plus tôt que tard. Donc, pour l'instant, USC, je vois pas comment elles peuvent se tailler.
C'est la même recette que l'an passé. C'est la même équipe que l'an passé, on dirait. Ah ouais. C'est la même chose.
Le
on
va t'en scorer plus que tu en c'est Caleb.
Ouais. Ah ouais.
Parce que par le passé, on a vu des équipes qu'on n'attendait pas nécessairement se faufiler dans le top 4 à cause d'un corps arrière qui avait une année exceptionnelle.
Joe Burrow.
Tu sais, Trevor Lawrence avec, avec Clemson. C'est le seul facteur qui peut jouer. Là. Mettons qu'ils battent, qu'ils traversent tous les adversaires que tu as nommés. Je pense qu'on n'aura pas le choix de les mettre sur le bord. Là. Mais ça dépend des quatre premiers.
Mais à chaque année, on a une surprise. TCU l'année passée qui s'est retrouvé là avec une équipe. On s'est dit, ah ouais, c'est vrai, ils ont d'affaires là. Puis finalement, en finale, ça s'est fait tapisser dans les petits coins.
Ils ont battu Michigan.
Ouais, ils ont battu Michigan. C'est clair. Donc, on va tourner rapidement le restant de la table. On va y aller avec Oregon de ton côté, Steph. Oregon, t'achètes ou tu vends? Oregon, ou ils vont chier quand?
T'achètes ou tu vends, ça dépend. Si t'es un investisseur très prudent, très peureux, qui se dit, garde, Oregon, je perdrai pas d'argent beaucoup, mais j'en ferai pas beaucoup. Ils vont rester à peu près à la même place. Ben, tu peux acheter, tu vas dormir tranquille. Il se passera pas grand-chose. Ils vont finir à peu près là. Mais je pense pas qu'ils vont aller beaucoup plus haut. Là.
Pas plus que...
Donc, t'achètes si t'es peureux.
Ils vont pas percer le top 4. Utah, on a parlé de leur grosse défensive. Là. Ça
bon
va tirer loin.
Passé d'offense, faut que je vende. Comme UCLA, c'est comme Steph en a bien parlé, c'est assez spécial comme partie. Comme tu fais un pick six sur le premier jeu du match, mais tu scores 14 points. Comme t'en scores juste 7, là, comme c'était tie game offense versus offense, ça marche pas, ça.
C'est pas parce que Cam Rising était pas là que ça justifie.
Non.
C'est pas assez.
Fait que c'est pas assez, fait que je pense pas qu'ils ont l'offense pour se rendre.
C'est clair. Je vais te lancer Notre-Dame, mais le bon chum Irishman sur Twitter va te
Marc Gagnon, il y a beaucoup de pression, je te regarde, là. Direct dans la caméra gauche. Notre-Dame, ils ont le beau jeu. Ils ont eu une défaite relativement serrée dans un match...
Mais à la maison.
Un match captivant, oui, contre Ohio State. Le reste de leur saison est relativement difficile avec USC à Clemson, si Duke. Je ne me trompe pas. Il y a Duke aussi qui vont devoir affronter. Donc, si Notre Dame sont en mesure de rester parfait, comme on dit en anglais, « run the table » jusqu'à la fin de la saison, ils ont le nom, la notoriété de « on reste parfait, on est Notre Dame, il y a une ou deux équipes devant nous qui s'enfargent. » C'est une équipe qui peut se faufiler. J'achète, mais de façon prudente et conservatrice.
All right, parfait.
Mais c'est une équipe qui est bonne des deux côtés du ballon, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Puis ça va aider leur stock là, au final.
C'est clair. Je vais m'envoyer Alabama en pleine tronche. Puis pour l'instant, Bama, malgré le fait que j'ai les haïs parce qu'ils n'ont pas été capables de battre Texas, malgré le fait que c'est plus l'équipe que c'était, puis les standards sont plus au même niveau qu'ils ont déjà été, je pense... quand même, sincèrement, qu'ils vont finir l'année 10-2, 9-3 au maximum. Ils ne scoreront pas une place dans le top 4, mais je vais quand même leur donner une push de fin de saison, de genre, ils vont aller brasser les cartes en fin de la saison parce qu'ils vont se rendre au championnat de la SEC, ils vont gagner ou challenger Georgia. Puis là, on va se dire, mon Dieu, ils méritent-tu leur place, méritent-tu pas leur place? Ils vont finir 5-6e. Puis là, tout le monde va dire, on aurait dû les mettre parce que là, finalement, USC vont se rendre 4e, vont se faire arracher à la face contre Georgia. Puis là, on va se dire, bon, ça aurait dû être Bama. Mais honnêtement, s'ils sont capables de resetter leur identité comme ils sont présentement, je vais acheter du stock de Bama pour qu'ils montent. Là, présentement, ils sont comme 10-12e. Je vais acheter du stock de eux pour qu'ils montent, mais ils ne perceront pas le top 4. Fait que je vais investir, faire un peu d'argent, mais je vais passer à d'autres choses. Je vais t'en relancer LSU en pleine face avant d'envoyer ça au petit garçon. Là, je m'excuse. LSU, où c'est que tu t'en vas?
LSU,
c'est non,
on
tu vends ça.
Tu ouais, je sais, mais je trouve ça dur à dire. Je suis obligé de vendre. Ça va. C'est ça.
Not this year.
Ils vont en perdre probablement deux encore cette année, malheureusement. Leur défensive, c'est leur talon d'Achille.
Tu avais quand même dit avant saison que tu trouvais qu'il y avait un peu trop de hype.
Oui, ouais, il était classé quoi, 5e.
T'es conséquent avec ce que tu as déjà dit.
Je trouve ça dur parce qu'offensivement, ils sont vraiment impressionnants. Puis on va perdre Jaden Daniels à la fin de la saison, mais leur défensive va leur jouer des tours. Puis c'est une équipe qui devrait finir. LSU vont finir, exemple, 12e à la fin de l'année, aller jouer au Eastern Potato Bowl à quelque part, puis on va être content, puis on va être hypé pour l'an prochain, puis c'est ça. On tombe dans le même cercle vicieux.
All right, on finit le top 15. Oklahoma, Steph, t'es-tu capable de me dire si t'achètes tout de suite sur eux autres?
Je suis assez indifférent. Il y a quelque chose quand même, on va leur donner. Habituellement, ils sont sous le radar, on les attend, puis tu sais, c'est gros, puis là, on est déçus, puis... Cette année, bon, ils font leur petite affaire, ils gagnent leur match.
Personne n'en parle.
C'est pas trop impressionnant, personne n'en parle, mais on n'a rien à leur reprocher jusqu'à maintenant. Là. En ce sens-là, j'achète, mais si tu me dis là, pour une place en playoff, non, jamais de la vie, on se sauve en courant. Là. Mais j'achète ce qu'ils sont en train de construire, là, peut-être.
All right. Terminant, équipe top 15, Dion, North Carolina, avec les Tar Heels, avec le fameux corps arrière qu'on... J'ai dit que je le mettais sur le Heisman Watch d'ici la fin de la saison, Drake Mayo. North Carolina, ils gagnent, mais ils ne sont pas là, là.
Ouais, c'est bizarre. Comme contre Pitt, ils ont mangé. Ils ont eu un très mauvais début de partie. Ils sont repris. Ils ont gagné contre Appalachian State, 40-34. C'est beaucoup trop de points qu'on a accordé contre App State. Fait que je pense que la défaite n'est pas là. Est-ce que Drake May pourrait comme devenir Superman puis leader ça jusqu'à la fin de l'année? Ouais, peut-être. Comme je pense que c'est une des équipes de la ACC qui est les plus intrigantes, qui pourrait surprendre, qui pourrait être comme un Pittsburgh d'il y a quelques années avec Kenny Pickett. Mais pour l'instant, la défaite est trop instable pour que j'achète. Fait que je vendrais pour un top 4.
All right, parfait. On va continuer ça avec notre segment Coaches Corner, X's and O's.
De
ça
retour,
fait longtemps qu'on n'en a pas eu un. Donc, pour l'occasion, on va y aller avec le Battle Cry de Ohio State. Yes! Donc, segment X's and O's. La question, elle se pose, puis elle était très pertinente parce qu'on en voit à chaque semaine, puis à chaque semaine, on voit des surprises à ce moment précis-là d'un match. Donc, Dion, je t'envoie la question que tu nous poses. C'est quoi le meilleur jeu pour gagner une verge au football?
Oui, le meilleur jeu pour gagner une verge au football. Donc, pour ceux qui, j'espère que vous le savez, vous le sachez depuis tout ce temps, je suis un ancien joueur de ligne offensive. Donc, à chaque fois que je vois un jeu pour gagner une verge qui est autre chose qu'un QB sneak ou un fullback dive, j'ai un petit vomi en dedans de la bouche. J'ai un peu de misère à voir ça. Et la question est venue du match Ohio State-Notre-Dame en fin de semaine et un peu du match du Monday Night d'hier des Eagles que j'ai regardé parce que j'aime beaucoup les Eagles. Si on a vu quelque chose… Oui, ça sera pas long. Mais on a vu les Eagles depuis 2 ans comme perfectionner le QB sneak à un niveau carrément absurde, ce qui convertit à peu près 95% de leur quatrième essai et 1. Mais on voit encore des équipes au niveau inférieur ou d'autres équipes de la NFL ne pas faire ça. Et c'est sûr qu'on comprend que Jalen Hurts est un corps arrière qui se prête beaucoup à ça. Ils ont une très bonne ligne offensive au milieu de la ligne également. Mais on va en parler un petit peu. Mais pour faire ça, Faf, t'as déjà été commentateur offensif, head coach, donc ta calotte est déjà là. Par contre, messieurs, j'ai des chapeaux pour vous.
Oh!
Donc, premier, à Stéphane. Donc, c'est mon ancien chapeau de coach. Donc, j'aimerais ça que tu le mettes. C'est un beau bucket hat des Barons du Séminaire de Sherbrooke. C'est, en plus, ça fait avec ton chandail. Wallet, je sais que ça va être difficile.
On ne s'était pas parlé avant.
Hein, non. Il va falloir que tu mettes cette casquette-là. Parce que
comme un fan des Bulldogs de Georgia.
Les Eagles sont les spécialistes du 4 et 1. Donc,
Fait que, va falloir que tu nous parles de push-off aussi, parce que ta veille d'être interdit.
C'est sûr,
ça va être
interdit.
C'est déjà interdit dans la CFL parce qu'on a une meilleure ligne côté règlement.
Ouais. Fait que, on va en parler, puis c'est plus moi qui va comme vous poser des questions, puis qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'amateur, parce que Wallet, tu n'as jamais été coach. Steph, as-tu été coach?
Non, j'ai joué, mais je n'ai pas été coach.
Jamais été coach.
Ma carrière fut brève.
Ouais, donc moi et Faf, on l'a été, on a été commentateur offensif, donc on a un peu cette vision-là de qu'est-ce qui est un jeu efficace sur un troisième essai et short ou un quatrième essai et short. On a vu Notre-Dame essayer une espèce de fake au sol, un bootleg du QB. On a vu Ohio State essayer un jet sweep avec Emeka Obuka. Wallet, t'es un gars qui n'a pas joué au football, mais qui adore le football. Mm-hmm. Quand tu vois une équipe sur 4 et 1 essayer autre chose qu'un jeu, mettons, direct, t'en penses quoi?
On se complique la tâche.
Ouais, mais c'est ça. Mais donc, pourquoi?
À moins qu'on ait une espèce de jeu truqué, mais en même temps, les coordinateurs défensifs sont tellement rendus clutch, selon moi, qu'on est capable de le détecter assez vite, selon la formation. Ouais. Mais
puis on a vu les Eagles essayer hier un fake sneak, puis Jalen Hurts est enfargé dans ses pieds.
Ça, c'est à la zone des buts.
C'était pas loin de la zone des buts. C'était peut-être à la ligne de 7-8. Okay. Mais c'était comme 4 et 1 à la ligne de 7-8. Puis ils sont line-up à la même formation parce que tout le monde est dans le tas. Jalen Hurts a juste fait en part en avant, il a reculé, puis s'est enfargé, puis est tombé, puis ça a perdu 4 verges.
Ça peut pas être fake Jordan Love qui passe par-dessus son O-line.
Ça, c'était drôle.
Rip sur un fake de.
Comme drunk moment.
J'ai vu ça en live, j'ai fait comme what the actual fuck.
Mais ça, c'est un point. Mais là, mettons, Steph, t'as-tu un point? Contre le QB sneak? Es-tu contre le QB sneak? Es-tu contre le jeu direct? Vois-tu un positif à y aller contre?
La seule fois dans ma vie que j'ai été contre le QB sneak, c'est quand ils ont envoyé Patrick Mahomes comme chair à canon alors qu'il jouait sur une patte. Là.
Ouais.
Ça, c'est juste pas intelligent.
Contre les Jaguars?
Ouais, mais tu sais, c'est un contexte vraiment unique. Très, très, très spécifique. Il n'y a pas beaucoup de QB sneak qui ne marchent pas. Bon, ça arrive, là. Mais le pourcentage, je serais curieux de voir le pourcentage des sneaks qui fonctionnent. Mmh. Peut-être que tu l'as.
Non, je ne l'ai pas.
Mais ça fonctionne très souvent. Après, bon, est-ce que c'est 4 et 1 ou c'est 4 et 2 pouces?
1,5.
4 et 6 pouces, ouais. 4 et 8 pouces. Ouais. Des fois, une verge sur un sneak, ça peut être touché. Ouais. Mais quand on dit 4 et 1, des fois, là, c'est 10 pouces. Un sneak, honnêtement, il n'y a rien de...
Est-ce que chaque
du point A au point B, c'est le plus simple?
Ouais. J'ai des statistiques. Les QB sneak result in the first down are a touchdown à 82%.
82?
Moi.
À 80% et plus là, de chance.
Ça me parle. Ça me parle. Les chiffres me parlent. Puis 82%, je me dis que je serais curieux de savoir sur un 4 et 10 pouces, un jet sweep. D'après moi, tu es plus dans le 50%. Puis là, ça paraît bien beau. T'es Andy Reid, là, tu fais un jet sweep. Ah, Andy Reid, c'est un génie, pis tout. Pis là, il a gagné 8 verges sur un 4. Mais la seule mission, c'est d'aller chercher ton premier jeu.
Si je joue à Madden, jet sweep all day.
Pire jeu au monde.
Parce que tout le monde va se coucher à terre.
Exact. C'est ça. Mais je te relance la question. C'est-tu à cause du push que c'est aussi efficace?
Écoute, c'est sûr que comment que le push, les Eagles seront présentement, ça va être, comme on l'a dit, ça va être illégal l'an prochain.
Ça va être banni, là, c'est sûr, c'est illégal d'un mois à l'autre.
Mais je comprends même pas comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'équipes présentement
qu'ils font.
Ils ont la recette, là. Ils réussissent, puis tantôt, je disais que 80% des QB sneak fonctionnent pour du côté des Eagles, parce que c'est 98%. Ouais. Il y en a manqué deux l'année passée au complet. Je comprends pas qu'on se ramasse avec un Jordan Love qui trips puis qu'il réussit pas, ou on ramasse avec des équipes qui font des QB. Chris, prenez la même formation. Elle existe, la formation. Ils vous l'ont donné la fucking recette. Prenez-la, puis utilisez-la.
Quand on sait à quel point la NFL est un copycat league.
Tu sais, on s'entend des QB comme qui sont... Tu sais, Jalen Hurts, c'est un QB qui est comme athlétique puis fort, mais c'est pas le seul. Là.
Ben,
Daniel
Josh
Jones,
Allen,
Josh Allen, comme ces gars-là, comme Trevor Lawrence, là, c'est un big boy, là, il peut pousser. Là. Comme, je comprends pas comment il y a encore... C'est un risque de blessure. Si c'est un risque de blessure, est-ce que toutes les équipes de la NFL pourraient se signer un QB de 6'3", 260, qui rentre dans le tas?
Taysom Hill.
Ils vont une job pour DJ.
Eux, ils le font pas. Comme c'est fascinant, ça me fascine cette espèce de tendance-là à ne pas vouloir runner le jeu simple, le jeu. Comme t'as-tu peur en tant que head coach ou compteur offensif de te faire dire j'ai été trop simple? On dirait que des fois. Ouais,
mais si t'échoues, personne va t'en vouloir. Personne va te dire comme ah, t'as été avec un QB sneak, franchement, c'est vraiment pas une bonne affaire. Hey, 80%, 82% de success rate. Là. J'ai joué les odds puis j'ai perdu, c'est tout.
Ouais, c'était à la fin de la game, il leur restait deux jeux, il restait 7 secondes, ils ont runné un QB boot à Marvin Harrison, qui n'a pas fonctionné. Puis après, il a fait un dive. Okay. Sneak, dive, whatever, vas-y direct. Comme, c'est une verge. Comme, fais confiance à ton monde un petit peu. Ton blocking scheme qui a de la lurf, pratique-le en pratique, être sûr que okay, la ligne est loadée, qui a qui, rentre dans les genoux, puis on avance. Là, comme, ça me fascine à quel point il y a des OC qui se compliquent la vie puis qui ne veulent pas juste faire le jeu. Yeah, tu rentres dans le tas. Non, on va faire un fake dive sweep. On arrête ça.
Moi, j'ai une petite joke.
C'est parce que le sneak, ils ne le mettront pas dans leur CD de jeu quand ils vont appliquer pour un poste d'head coach, alors que le fake jet sweep.
Philly special.
Reverse pass special.
Un quad à gauche avec un swing.
Ils vont dire regarde ce que j'ai concocté comme jeu. Là,
je pense que Dion va comprendre la joke. Toi, peut-être. Steph, tu ne comprendras pas. Non, je ne peux pas la raconter en live. J'ai toujours pensé que c'était un QB draw. On s'en parle plus tard.
Très bon.
Ben,
très bon.
En fait, moi, la question que j'ai pour toi, parce que quand j'ai lu cette question-là, de comment on peut gagner une verge au football, au début, le QB sneak m'est venu en tête, puis après ça, j'ai dit, mettons que je veux faire preuve de créativité, que je veux mettre ça sur mon CD pour être capable de... Je me suis dit, la meilleure façon de gagner une verge au football, c'est de créer une erreur défensive, un offside défensif, pour générer mon first down automatiquement. Puis en plus, j'en ai 4 en bonus. Fait que, tu sais, je me mets ça dans la petite pochette, puis on s'en va par en avant. Puis, en me... auto-diagnostiquant cette question-là, puis en me disant « Ah, c'est ça que je ferais, tu sais, j'essaierais de créer un offside défensif pour être capable de générer de l'offensive. » Ce que je me suis demandé, c'est quand les équipes veulent justement draguer cette pénalité-là défensive, là, tu sais, le fameux 4e et 3, on est un peu en fin de demi, en fin de quart, on est en attente du 2-minute warning, puis là, ben au final… Il n'y a pas de pénalité parce que le gars, il est en shotgun. Le gars, il est avec un wide spread. Puis là, tout le monde se dit, ben non, c'est sûr qu'il ne va pas faire de passe. Fait que les O-line, ils sautent, les D-line ne sautent pas le gun. Pourquoi, quand tu veux draguer cette fameuse pénalité-là d'offside, pourquoi il n'y a pas plus souvent de formation de potentiel QB sneak? Rendu là, on va y aller. Là, genre, je me mets là, puis c'est sûr que je vais y aller. C'est sûr que je vais y aller. C'est bien plus efficace d'être en undersnap avec une boîte loadée comme un bloc pour essayer de faire croire à la défensive qu'on va y aller. Là, parce que efficacement, un vrai QB sneak, tu es capable d'atteindre trois verges, deux, trois verges. Là.
Si fait la défensive n'est pas loadée up,
exact,
tu peux avoir.
Tu fais ça, tu les amènes dans la boîte, puis là, tu fais ta fausse cadence pour être capable de les draguer. Bref, je me suis posé la question, comment gagner une verge, mais au final, comment efficacement gagner 5 verges, c'est non seulement avec une formation de QB sneak, mais en essayant de draguer une pénalité défensive. T'sais. Moi, c'était ça ma réponse à ta question, monsieur le coach.
All good.
On peut-tu enlever les chapeaux des gars parce que Steph, avec sa petite capine.
On a passé le test, ça va.
Merci, les gars.
J'y accroche pas. All right. Continue ça avec le segment Helmet, Sticker and Flag de la semaine. Yes. Donc, pour cette semaine, Helmet, Sticker and Flag, à tout seigneur, tout honneur, ton sticker de la semaine, à qui tu veux donner de l'amour, Steph?
Hey, j'en ai deux. J'ai le droit?
Oui, vas-y.
Je suis pas souvent que je suis une show, là, quand même. Deux, ce serait pas trop abusé.
All open.
Dan Lanning, mon premier, avez-vous vu son speech enflammé contre Colorado?
We want wins, not clicks. They're fighting for clicks, we're fighting for wins.
Moi, j'ai adoré, pour toutes sortes de raisons.
Ça a marché.
mais ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est que le gars était quand même respectueux, mais il a boosté ses troupes. C'était génial. Tu peux pas écouter ça, rester indifférent. Tu sais, le poil te dresse, puis tu as le goût de tuer tout le monde. Chapeau à Dan Lanning pour son speech. Vraiment, là, moi, j'ai trouvé que c'était impeccable avant ce match-là. Tu sais, c'est la fin du conte de fées. Tu fais croire, là, ton équipe, faut qu'ils croient en toi, faut qu'ils croient en eux. Puis j'ai trouvé que c'était une job parfaite à ce niveau-là. C'était pas too much, c'était juste correct. Bravo. Puis l'autre sticker que je voulais donner, mais les gars, là, ça va être, vous allez trouver que j'étais têteux. Mais c'est à vous autres!
Oui!
Moi, je suis content parce que le college football, j'ai toujours suivi ça. Mais du coin de l'œil, un peu distraitement. Moi, mon dada, ça a toujours été la NFL. Mais en écoutant des podcasts comme le vôtre, puis c'est vraiment vous autres que j'écoute principalement, vous le savez, vous faites des jokes avec ça tout le temps. Quand je cours, je suis un coureur, ça j'aime ça courir.
Ça a l'air que son kilomètre n'est plus à 4.
Quand je fais ma longue sortie, c'est avec vous autres. Puis non seulement, tu sais, vous m'informez, mais vous êtes amusant, c'est drôle.
Beau.
Ouais, ça c'est décevant en
personne. Ouais, pas à ça. Hein.
C'est mieux dans ta petite écran.
Blague à part, merci les gars, parce que vraiment, c'est important. Le college football,
cheers.
On n'en parle peut-être pas assez ici. Bon, la NFL c'est gros, il y a des gens qui aiment beaucoup la CFL.
Mais pourquoi, on sait pas.
Je pense qu'il y a quelque chose à gagner là, avec la NCAA. Puis moi, vous m'avez initié à ça, puis écoute, J'ai le goût de vous dire, grâce à vous maintenant, j'écoute ça tous les samedis. Ma blonde aurait plus le goût de vous dire «
Fuck you ».
Fuck you. À cause de vous autres, je le perds le dimanche puis le samedi maintenant. Mais ça, c'est la vie. J'aime ça, je trippe. J'écoute ça avec mes gars qui sont maintenant les trois dans l'âge de triper sur le football. Puis, écoute, ils me le disent. Là, ils aiment autant ça que la NFL maintenant. Puis il y a même des week-ends comme la semaine passée où je suis franchement obligé de dire que la NCAA a dépassé la NFL. C'est pas toujours le cas.
Dis pas ça à Bruno plus Brochu.
C'est pas toujours le cas. Mais la semaine passée, honnêtement, on a eu tout un show. Merci pour ça parce que vraiment, je serais resté un peu en surface. C'est ça que je voulais vous dire. Puis vous m'avez amené à aller plus loin là-dedans, à vraiment découvrir des affaires, des programmes. Des fois, c'est un peu décourageant.
C'est pas accessible.
Tu regardes ça, tu te dis, là, il y a 172 conférences, 10 000
Puis avec
divisions.
Le transfer portal, c'est quasiment impossible.
Ouais, c'est dur à suivre, mais on arrive à suivre le beat là, grâce à du monde comme vous autres. Chapeau.
Merci.
Merci beaucoup.
Bien apprécié. Tes stickers de la semaine, Dion?
Yeah. Deux, moi aussi, rapidement. Corps défensif de Ohio State, Jim Knowles. On en a parlé. On a parlé des joueurs qui étaient là, mais Jim Knowles, l'an passé, ça fait quand même donner un peu de mal pour la performance contre Michigan et Georgia. Avec raison, mais des systèmes, ça prend du temps à installer. Cette année, on dirait qu'il est installé avec le bon personnel. Donc, Jim Knowles, DC de Ohio State, ça semble cliquer. J'espère que ça continue. Et deuxième sticker, on n'en a pas encore parlé, en tout cas, j'en ai peut-être pas entendu parler encore beaucoup, mais le duo de receveurs de Washington, on a dit que Washington était peut-être l'assassin silencieux. On n'a pas encore, on parle beaucoup de Michael Penix.
Penix, silence à du monde.
Ouais, hein? Jalen Polk et Rome, là, vous allez être estomaqué, je ne sais pas comment le prononcer.
Odunzi.
Odunzi.
Odunzi. Rome, c'est que la semaine passée, j'ai dit Dion me corrigerait.
Non, je ne sais pas comment le prononcer. Jalen Polk, Rome, Odunzi, les deux receveurs de Washington, c'est des machines à s'enverger, ça n'a aucun sens. Trouve une façon de se carrer de toutes les façons possibles, deep, short, des screens. J'en ai vu un il y a une couple de semaines, pogner un tip pour aller scorer un TD. Les gars sont des playmakers et je vois leur nom popper up dans des scouting reports. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils vont. Donc, deux receveurs vraiment à regarder. Washington ne sont pas dans le spotlight souvent, mais c'est vraiment deux receveurs qu'il faut porter attention. Donc, Jalen Polk et Rome Odunzi, des Washington Huskies.
Ils n'ont pas la bonne couleur de chandail encore.
Mauve, c'est net.
Je vais y aller avec mon sticker de la semaine. Mon sticker de la semaine, autant tu as parlé du coach de Oregon qui a essayé de garder ça à un niveau not personal, parce qu'on ne veut pas tomber personal avec Deion Sanders, mais quand j'ai vu la mascotte des Ducks arriver sur le terrain avec le chapeau de cowboy, les shades, les mêmes lunettes, que là, j'étais comme, hey, là, il n'y avait pas ça dans leur garde-robe de mascotte. Il n'y avait pas ça genre, il avait pas ça dans leur costume là, en disant, on va mettre ça. Là. Ils l'ont fait faire au travers une semaine. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas fait faire ça la semaine 1. Là. Quand ça a fait le tollé la semaine passée, ils ont décidé de commencer à faire ça. J'ai trouvé ça exceptionnel. Il arrive sur le terrain avec son chapeau de cowboy, les lunettes. Puis il y a une petite horloge avec marqué Prime sur le côté en carton. Puis il sort avec son bâton de baseball. Puis il commence à la tabasser. Puis là, j'étais comme, OK. Eux sont allés personal avec lui. Là. Ils l'ont mimique, ils l'ont imité, ils l'ont caricaturé à un fond. Puis là, sa propre caricature qui défonçait l'horloge en question. J'ai dit, oh shit, là, au début de la game, là, puis on en parlera plus tard, mais tu sais, tout ce qui s'est passé avec l'émotion que Dion essayait de générer auprès de ça. Ben, je pense que les Ducks ont comme gagné cette bataille-là d'intimidation avec ce genre de choses-là. Fait que moi, je leur donne un Snickers pour les Ducks pour cette semaine-là. C'était assez cool de voir ce stun-là là, à ce niveau-là. Wallet, ton sticker,
mon qui te donne de l'amour. Écoute, plus tôt la semaine dernière, le légendaire coach des Irish de Notre Dame, Lou Holtz, était sorti dans les nouvelles. Je pense qu'il était sur le show de Pat McAfee. Puis il disait, ouais, Ohio State sont plates. Ohio State, ils manquent de punch. Ohio State,
ils sont pas tough.
Ben, tu sais, il n'y avait pas tort. Dans le sens que, de ce qu'on a connu de Ryan Day, Dion critiquait souvent, c'est une équipe qui manquait un peu de charme, c'est une équipe qui manquait une petite coche. Puis Ryan Day, je le trouvais beige un peu. Je trouvais que c'était un gars qui était soft. Ryan Day, c'est. Il regarde cette semaine, il a dit « Fuck it ». T'as 86 ans, Lou Holtz? Fuck you. On t'a battu, puis retourne te coucher, puis prends tes vitamines, puisque demain matin, tu vas trouver ça rough quand tu checkes le scoreboard de la game. J'ai aimé ça, voir une différente facette de Ryan Day. J'espère que ça va rester. Je pense que c'est le petit chien que je voulais voir de lui qui…
Cette année.
Ouais, puis tu sais, Ohio State se font critiquer, puis regarde, il s'est fait manger sa laine sur le dos. Là. J'espère qu'il reste comme ça d'ici la fin de l'année, puis je pense que s'il reste comme ça, puis qu'il motive ses joueurs… Ma prédiction qu'Ohio State va être champion national va peut-être mettre un petit 10 dessus, mais non, je ne le ferai pas parce que. Je
peut-être pas de raison, il y a le contrat qui arrive.
C'est ça qui arrive. Ben, donc, chapeau Ryan Day là, qui sort un peu là, des chantiers battus, puis vous, je donne.
Yes. Si on va écouter des flags de la semaine, une petite tape sur le chapeau à qui on veut un petit peu donner un what the fuck. Comment ça avec toi, Steph?
Moi, c'est une séquence qui m'a fait rire dans le match Auburn-Texas A&M. Jimbo Fisher, on pourrait le critiquer pour 2 millions de raisons. Là. Je veux dire, on en a parlé en masse dans les dernières années. Le contrat démesuré, les résultats qui n'arrivent pas à A&M, les classes de recrutement qui sont fantastiques, mais qui se sauvent ailleurs finalement. Il y aurait toutes sortes de raisons. Mais pourquoi cette semaine? C'est parce qu'à un moment donné, il y a un jeu sur un fumble return de Auburn. Jimbo Fisher est sur le terrain. Mais pas juste sur le terrain, un pas sur le terrain. Il est carrément sur le terrain au point où le gars d'Auburn qui retourne le ballon doit passer entre Fisher et la ligne de côté. C'est fascinant.
C'était Mike Tomlin, mais à un autre niveau. Là.
Oh, oui. Puis tu sais pas qu'est-ce qu'il regarde, tu sais pas qu'est-ce qu'il suit exactement. Il a pas l'air trop dans le
game. Il s'est pas fait flaguer? Il y a pas eu de...
Je pense pas qu'il y a eu de flag. C'est assez mystérieux. Là. Mais écoute, les auditeurs pourront nous corriger. Là. J'ai juste revu la séquence par après. C'est pas un match que je suivais nécessairement attentivement, mais quand j'ai vu ça... Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Le gars n'a pas l'air incarné, il n'a pas l'air dans son corps, là, je ne sais pas, il est ailleurs, il vit une expérience cosmique ou je ne sais pas quoi, mais ça faisait franchement bizarre. Donc, mon flag cette semaine à Jimbo Fisher, comme je disais, ça pourrait être pour l'ensemble de l'œuvre, mais vu que c'est à la semaine, on va y aller avec cette faute-là qui est plus récente.
C'est délicieux. Dion, ton flag de la semaine, à qui, pourquoi?
Ouais, rapidement, joueur de Colorado qui marche sur le logo des Ducks d'Oregon, ça ne se fait pas. Tu peux être confiant, tu peux être cocky.
Ils n'ont pas juste marché, ils l'ont comme graffiné. Ouais, là, graffiné. Ils stompaient pis tout. Là.
Ça se fait pas, surtout qu'après, tu te fais déconcrisser, comme tu as l'air encore plus cave.
Ça me rappelle quand Michigan avait fait ça à Michigan State.
Mais il avait gagné, je pense.
As-tu gagné, ça
ouais,
se
fait? C'était Levin Bush, là, mais en tout cas, je suis contre, anyway. Là. Mais faites pas ça, comme peu importe à quel point tu te penses hot, que tu te penses dominant, que tu penses sacré une volée à l'autre équipe, on respecte le logo, toujours important. Voilà.
Puis à la fin de la game, il y a un joueur de Colorado en plus qui sortait. Puis là, il y avait des joueurs qui attendaient dans le tunnel pour donner la main. Je me souviens plus quel joueur. Puis là, ben, il a comme donné la main d'un côté. Il est allé faire un piece pour qu'un gars prenne une photo de l'autre bord. Puis il y avait un fan de Reagan qui était là. Puis il a juste genre snatché ce qu'il y avait sur sa tête pour le pitcher dans les estrades. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de te faire battre. Là, genre, essaye même pas de jouer le coq. Là, ça n'a pas rapport. Mon flag de la semaine de mon côté, je vous ai parlé de la mascotte des Ducks qui est arrivée habillée comme Sanders. Puis qui a commencé à tabasser l'horloge. Puis je trouvais ça un stun incroyable. Par contre, un petit Croche qui est arrivé pendant qu'il faisait ça, pendant qu'il était en train de démolir l'horloge avec toute la passion du Christ qui l'habitait, sa tête de mascotte est tombée au sol.
Oh non!
Il s'est retrouvé plus de tête de mascotte. Fait que là, t'as juste un gars avec une petite tête et un Christy de gros costume que pris de panique au lieu de juste faire comme genre je ramasse ma tête puis on continue le show ou genre comme j'assume le fait que j'ai perdu ma tête, c'est juste mis à courir dans le tunnel pour aller se cacher de comme oh non, les enfants vont le savoir qu'il y a quelqu'un dedans. Puis j'étais comme mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu te pousses? Là il y a juste un gars qui est en train de le filmer qui lâche son sel, qui part à courir, qui ramasse la tête avec le chapeau de cowboy puis qui part à courir pour le suivre. J'étais juste comme mais c'était si bien parfait, comme c'était bien parti ce stun-là. Là. On avait un bon show. Pourquoi tu as décidé de te pousser quand tu as perdu ta tête? Tout le monde le sait qu'il y a quelqu'un dedans, là, youpi. Là. Calme tes nerfs, là, remets ta tête et continue le show. Là. Le show must go on. Là. Pousse-toi pas en courant quand tu perds ta tête. Okay, bref, le meilleur moment de ma semaine s'est transformé au moment le plus drôle. Inutile de la semaine. Là.
Les fans de lutte diront qu'il aurait dû faire comme le Shockmaster dans la WCW qui avait ramassé sa tête à terre pour la remettre. Vous irez voir ça, les jeunes, YouTube ça, c'est fabuleux.
YouTube ça, ça vaut la peine. Alors, finis ça. Toi, de ton côté, à qui tu veux donner une petite tape sur le chapeau? Là?
J'en ai deux. Je vais commencer par moi. Hein? Écoute, ça fait à peu près 12 ou 13 ans que j'essaie de devenir une référence en termes de collège football, d'à chaque semaine écouter le plus de matchs possible. Puis la raison pour laquelle je suis au Québec cette semaine, c'est parce que j'avais un mariage dans la famille. J'aurais pu me servir de mes allergies saisonnières pour dire « je peux pas y aller ». À vrai dire, j'ai essayé, puis ma femme a dit « non, tu vas venir au mariage ». Donc, à moi, j'ai écouté zéro match. C'est tout ce que je vous parle, c'est parce que je l'ai vu en highlight, puis je trouve ça plate parce que j'ai manqué une crise de bonne fin de semaine. Puis mon deuxième flag, c'est les gens qui s'aiment. Il y a 365 jours dans une année, 14 au collège football, prends-en un des 350 autres pour te marier.
Wow! On va dire ça à ta belle-sœur, sûr qu'elle va, elle va être compréhensée pour l'année pour la prochaine fois qu'elle va se marier. Parce que...
Désolé, Madame Wallet.
Ah, c'est que c'est bon, ça.
Il fallait que je le fasse pour faire rire les foules.
All right. On va continuer ça avec le dernier segment pour aujourd'hui, le segment horaire de la semaine. On passe ça dès maintenant. Qui qu'on met là? Yes, donc on va y aller avec le segment horaire de la semaine. C'est le dernier samedi d'action dans le dernier samedi d'action en septembre, pardon, dans le college football. Les températures commencent à se refroidir, les petites feuilles dans mes angles commencent à devenir un petit peu jaunâtres. Je sais que le vrai bon football commence à s'en venir, puis c'est vraiment excitant. On a déjà eu des bons matchs dans les quatre premières semaines, donc j'ai ben vraiment hâte de voir ce qui va ce que nous réserve pardon la cinquième semaine. Donc la nouvelle tradition veut qu'on fait le tour du panel avec quatre questions différentes. Je vais vous laisser le faire, messieurs. Je vais me retirer de la course pour essayer de se rendre plus efficace puis ne pas parler en redondance. On va commencer avec la première catégorie. Si tu peux regarder juste un match, sauf si c'est un mariage, si tu peux regarder juste un match, Wallet, qu'est-ce que tu regardes en fin de semaine?
Écoute, je suis obligé d'y aller avec une équipe que j'aime.
Obligé.
Okay. C'est le match à regarder selon moi. C'est LSU, 13e au pays, qui se déplace à Oxford, au Mississippi, pour affronter les Rebels de Ole Miss. Comme j'ai dit tantôt, LSU, une grosse offensive. Même chose pour Ole Miss. C'est une équipe qui est capable de mettre beaucoup de points au tableau. Les deux ont des défensives, par contre, qui sont vagabonneuses. Est-ce que c'est un mot? Je ne sais pas, mais je trouve que ça se dit bien. L'over-under est à 62,5. Je pense que au milieu du troisième quart, là, ça va être défoncé. LSU qui sont favoris par 2,5 points seulement. Je m'attends vraiment à un match avec beaucoup de points. Je pense que LSU se sauve avec la victoire parce que, contrairement à Ole Miss, oui, on a des bons receveurs, mais on a aussi des bons porteurs de ballon, puis on peut contrôler le temps de ballon et de possession.
Yes. Steph, tu dis comme Wallet, pourquoi?
Je dirais le même match parce que ça va être une explosion de saveur. Puis écoute, c'est le fun d'avoir joué Jaden Daniels aussi.
Mr. Highlight Machine.
Tu sais, c'est ça. La semaine passée, il n'y a pas eu deux passes incomplètes? Quelque chose
c'était
comme
vraiment,
ça?
Ouais, c'était un
moins
petit peu
quelques passes de toucher ou quelque chose comme
ça. Oui, c'est ça. C'était complètement fou. Fait que j'ai tendance à dire que c'est le match que je regarderais. Même si ce ne sera peut-être pas à la hauteur des attentes, j'essaierai quand même de jeter un œil sur Georgia-Auburn parce que c'est une rivalité depuis 100 000 ans. souvent, dans ces genres de matchs-là, les équipes qui, en apparence, sont très décevantes, en l'occurrence Auburn, peuvent en donner un petit peu plus. T'sais, c'est souvent là que tu veux vraiment faire mal paraître ton rival. Donc, ce serait celui-là, sinon, pour cette semaine.
Jaden Daniels, semaine passée, 20 en 29, pour ton information.
20 en 29, ouais. C'est peut-être la semaine d'avant là, qu'il y avait deux. Ouais, il rate pas beaucoup de passes. Là, non, c'est franchement impressionnant ce qu'il fait jusqu'à
maintenant. C'est assez cool. De ton côté, Dion, tu as un match à regarder. Qui tu regardes, pourquoi?
Ouais, Notre-Dame contre Duke, 11 versus 17.
Qui aurait prédit?
Qui aurait prédit ça, pour vrai? Ouais. Non, mais j'ai quand même eu du plaisir à regarder Notre-Dame la semaine passée contre les Buckeyes. Je trouvais que c'était une équipe qui était le fun à avoir joué. Physique, intense, bonne défensive, bon jeu au sol, mais capable de faire des gros jeux par la passe également. Duke surprend un petit peu à regarder le carrière de Duke Riley Leonard. Peut courir comme passer. Commence à monter vraiment dans les draft boards, je pense. Fait que ça va être un duel intéressant. Notre-Dame favori par 5.5. Je pense que Notre-Dame va avoir un chien à la suite de, un chien dans le ventre suite à leur défaite. Fait que je pense qu'ils couvrent ce pointage. Ils vont gagner par 7 points.
Yes, prochaine catégorie, le match le plus compétitif. Stéphane, tu nous donnes aussi Duke contre Notre-Dame. Pourquoi tu penses que ça va être le plus compétitif?
À cause de la défensive de Duke. Alex parlait du QB de Duke, puis c'est bien de le noter, mais la défense de Duke n'a pas donné plus que 14 points cette saison dans un match. T'sais, c'est quand même... ils n'ont pas eu peut-être l'opposition du siècle. Notre-Dame, ça risque d'être plus de points que ça, évidemment. Mais quand même, ils ont eu des tests, je te disais, ils n'ont pas eu des tests énormes comme d'autres équipes, mais ils ont quand même affronté Clemson et UCF, deux équipes qui sont capables de marquer des points. Quand tu dis que tu t'en es tenu à ce nombre de points-là en défense, moi je pense qu'en termes de compétition, je te dis pas nécessairement le meilleur match, le plus explosif, le plus trippant à regarder. Mais en termes de match serré compétitif, là, moi, c'est celui-là que je vois cette semaine.
All right. Wallet, de ton côté, match le plus compétitif de la semaine. Qui, pourquoi?
Je suis obligé de rester dans la Pac-12 cette semaine. Utah, qui est 10e, qui se déplace à Corvallis pour affronter les Beavers, qui sont 19e au pays suite à leur défaite contre Washington State. On en parlait tantôt, les Beavers sont capables de mettre beaucoup de points au tableau. Mais ils sont capables d'en accorder beaucoup aussi. Utah, ça va être leur premier gros test défensif là, pour les Beavers cette année. Sans Cam Rising, on en a parlé un petit peu. Là, je pense que
est-ce qu'il peut jouer cette semaine?
Tu fais un bout, là.
Ça fait quasiment un mois.
C'est ça, j'ai l'impression qu'il pourrait revenir. C'était surveillé.
C'était à surveiller, mais c'est ça. L'offensive des Utes est relativement léthargique là, depuis le début de l'année, puis ça va leur coûter un jour ou l'autre. Comme tu viens de dire, ça sera un bon temps de ramener Cam Rising, mais est-ce qu'on le ramène trop vite? Est-ce qu'il est 100%?
Ouais.
Ceci dit, je m'attends à un duel qui va être corsé. Le over-under est à 47. C'est un tricky, mais je pense que ça va être soit un match qui va se terminer avec 30 points seulement ou un match qui va se terminer avec 70 points. Je pense que 47, c'est comme vraiment juste un milieu. J'ai l'impression que les Beavers qui se remettent d'un dur lendemain de veille vont sauver avec cette victoire-là, sont favoris par 2 points au moment que j'ai écrit ces lignes. Là. Donc, je vais avec les Beavs.
All right. Dion, même match-up?
Ouais, comme Wallet, il a tout dit. Très éloquent, as always.
Génial. Le match le plus sous-estimé, le plus underrated, on va commencer avec toi, Dion. Quel match, selon toi, est le plus underrated? Puis, ça a été mon choix, fait que je peux t'entendre parler à propos de ça.
Ouais, Florida contre Kentucky. Kentucky qui sont 4-0, comme un petit peu une surprise, honnêtement. Ils n'ont pas eu un gros schedule. Vanderbilt, Akron, Eastern Kentucky, Ball State. Comme, ils n'ont vraiment pas joué contre personne, mais ils l'ont tout pas mal sacré une bonne volée, fait que, ou une game assez dominante. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il peut faire comme Florida. Florida, Graham Mertz, qui est encore arrière, qu'on est comme pas trop sûr qu'on pensait. PFF Lem, on a vu ça cette semaine passée un peu, comme bien raté.
Mais top 4, ouais.
Clairement pas un des gars les plus flashy. Mais bon, SEC game, je pense que ça va cogner, ça va être intéressant. Ça devrait être serré du début à la fin. Fait que si ça passe sur votre CBS, il passe encore sur CBS, c'est ESPN, la SEC, right?
SEC, ouais.
Ouais, fait que sur votre TSN Plus, il devrait être là. Ouais. Avez-vous parlé de TSN Plus au podcast?
Oui, on en parle.
Ah, super.
C'est ma révélation.
Ouais, fait que Florida, Kentucky, fait que ça devrait être intéressant.
Yes. Steph, si tu veux me parler du match le plus sous-estimé à l'heure actuelle, il va falloir que tu me le vendes, celle-là.
Ça va être drôle à ce que je vais dire. Colorado-USC. Pourquoi? Ben écoute, USC va gagner. Il n'y aura pas d'upset. Là. Je ne l'ai pas mis dans mes upset alerts. Mais il va t'avoir du point, là. J'ai l'impression que ce qu'on a vu de la défense d'Oregon la semaine passée, tu sais, USC n'arrêtera pas Colorado, peut-être comme Oregon les a arrêtés. Donc, tu sais, un genre de match de 56 à... 30, qui est serré pendant trois quarts peut-être, puis que là, bon, USC finalement se sauve avec les gros jeux. Et en
over-under à 74 points.
Ben, je suis pas surpris. C'est un peu ce que je viens de dire en d'autres mots.
Vegas le sait.
Mais tu sais, quand je parle de match sous-estimé, je te parle pas encore de là, là, je veux juste être clair. C'est pas pour dire « Ah, Colorado pourrait les surprendre ». C'est pas ça, mais il va t'avoir de l'attaque là. Ça va brasser de tout bord, tout côté. Puis on va voir un peu les lacunes, je pense, de la défense de USC.
Ouais. Ben, je suis d'accord, c'est un match sous-estimé dans le sens où, avec la défaite de Colorado, USC 8e, on se dit bon, je ne porterai pas attention nécessairement à ce match-là. Le hype un peu autour de Colorado diminue, mais je suis d'accord que si jamais on
la
a ballon
qui a dégonflé
porter...
aussi, ça peut leur faire du bien. Ça peut juste tranquillement là, avoir donné une petite leçon d'humilité, avoir dégonflé les égos un peu. Je ne m'attends pas à une performance aussi minable que la semaine passée.
Yes. On a déjà parlé de ton côté, le match le plus sous-estimé. Tu penses que Notre Dame Duke, c'est sous-estimé?
Oui, pour la simple et unique raison que personne ne saurait dire Duke vont être compétitifs cette année. Tout a été dit, c'est le match qui est le plus sous-estimé selon moi.
Yes. On va retourner le tour de table avec l'upset alert. Steph, je vais t'envoyer la balle en premier parce que je suis un peu surpris de celui-là. Upset alert de la semaine, ouais. Qui puis pourquoi?
Upset alert, la définition, c'est qu'on prend une christie de grosse chance.
Ah oh, ouais, c'est dit, parfait.
Qu'est-ce qui pourrait arriver de bien étonnant cette semaine? Ouais. J'avais aimé la semaine passée, c'était le call à Wallet de Clemson. Ça a failli arriver. Là. Écoute, il en manquait pas gros, comme on dit. Pourquoi pas South Carolina, Tennessee? Tennessee, qui est quand même boiteux, là, c'est pas l'équipe qu'on attendait cette année. Bon, ils ont eu quelques bons matchs, là, mais ça a été plus difficile après il y a deux semaines. South Carolina, qui n'ont pas des grosses performances, mais qui ont donné des games quand même à Georgia. Ils ont perdu par 10 points, je pense, de mémoire, 24-14, ouais. Quelque chose comme ça.
Oui, c'était compétitif, ça. Ouais.
C'était plus compétitif. Puis ils ont donné une game quand même aussi à North Carolina. Donc, pourquoi pas? T'sais, Tennessee, on ne sait jamais ce que Joe Milton va sortir comme match. Est-ce que ça va être très bon ou bof? À surveiller, sait-on jamais. Mettez pas super. Votre maison là-dessus, mais votre cabanon peut-être.
Bon, j'ai juste une tondeuse. ton upset de la semaine, qui, pourquoi? Puis celle-là, elle m'intéresse bien,
content,
gros!
Celle-là. Kansas contre Texas. Kansas, yes. Undefeated aussi, classé 24e. Carrière, Jalen Daniels, pas Jaden Daniels.
Ouais. Jalen.
Jalon Daniel. Écoute, Texas, grosse win contre Bama. Win confortable contre Baylor la semaine passée. Là, c'est un autre test. Ils sont à la maison, peut-être confortable, un peu trop confiant. Texas, c'est ce qu'on a vu dans les dernières années. Ah, oh, ils ont l'air bon au début de la saison. Ah, ils deviennent confiants, puis ils pètent de quoi. Fait que Kansas pourrait leur faire une petite surprise cette semaine. Favori par 16,5, Texas. Mais si j'avais un spread à couvrir, ce serait sur les Jayhawks.
All right, j'haïs pas ça.
Ben, c'est intéressant, ça, ce que tu dis, parce que le upset, des fois, c'est pas tout le temps est-ce que l'équipe va battre le favori.
Mais plus proche.
Ils vont-tu couvrir, ils vont-tu leur donner une grosse game. C'est pour ça que j'aime ce segment-là que vous faites, parce que, écoute, il y a un million d'upsets possibles.
Là, je verrais Kansas qui mène à demi, là, puis je serais aucunement surpris. C'est ça. Aucunement surpris.
Yes. All right, finissons avec un des bons upsets de l'année. Georgia 1. Au pays, les premiers au pays contre Auburn. Oh. On sait que c'est une rivalité, mais qu'est-ce qui te fait dire ça?
Ben, moi, souvent passé pour un Chris d'épée, là, samedi après-midi. Là, mais je sais pas. Depuis le début de l'année, on dit que Georgia ont des lents débuts de match, puis qu'ils sont soft. Puis là, pour faire par exprès, je call là upset, puis ils vont sortir tout feu, tout flamme, gagner par 4 touchés. Mais si on se fie à la logique, si on se fie à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, comme je viens de dire, ils sortent un peu soft, sont sur la route aussi. Il faut se rappeler là, que le match était à Auburn, qui est un environnement hostile avec une rivalité entre les deux équipes. Si Auburn sont capables de capitaliser sur un lent début de match, je pense qu'on peut avoir un match intéressant, mais je pense que Georgia, au final, devrait revenir fort en troisième, quatrième quart. Mais sinon, je pense que ça peut être un des bons matchs de la fin de semaine, puis potentiel upset alert.
Yes. Ben, c'est super intéressant. Il y a plein d'autres matchs à l'horaire, évidemment. On ne prendra pas nécessairement le temps de faire le tour présentement, mais allez sur notre Twitter. Wallet, ils se forcent à faire ça chaque semaine. Donc, les matchs qui sont à nos télévisions ici au Canada, donc TSN, Fox, ABC, CBS, ont plusieurs matchs au milieu de la journée, en après-midi et en soirée. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre page Twitter. En finissant, je vais faire le tour rapidement. Steph, merci beaucoup d'être déplacé de Québec pour venir nous rencontrer aujourd'hui, pour venir discuter avec nous autres. C'était super intéressant. Un journaliste émérite du Journal de Montréal et de Québec.
on va aller visiter les bureaux.
Oui, on va aller visiter les bureaux. On est juste à côté présentement. Donc, sur Twitter, en commercial, SCadoretteJDQ pour Journal de Québec. Donc, on peut te suivre. Tes articles sont pertinents, puis tes réactions en live pendant les matchs, autant de la NFL que de la NCAA, je trouve ça super cool. Tu n'hésites pas à retweeter des affaires de PFF en disant « Avez-vous vu ça? C'est important, c'est intéressant. Portez attention à ça. » Donc, des fois, ça m'ouvre les yeux sur des choses que j'aurais laissé passer. Puis, en sachant que tu y portes attention, je me dis « Ah, c'est plus important que j'y pensais réellement. » Parce que je trouve ça… Non, mais je te trouve pertinent. Non, mais tu connais tes affaires, tu connais tes shit sans bon français. Fait que on n'hésite pas à aller te suivre sur Twitter. Puis, ton podcast, La Zone payante, pardon, sur Cube Radio.
Payable.
Donc, Zone payante sur Cube Radio, pardon. Chaque semaine, vous parlez de la NFL pendant toute la saison complète. Pose des questions aussi sur ton Twitter puis ton Facebook. Donc, si on a des questions pour toi, pour la NFL, avec tes acolytes, tu vas répondre à ça.
C'est
donc,
toujours le fun d'interagir avec les gens.
T'as-tu d'autres choses à plugger? T'as-tu un livre qui s'en vient?
Ça fait pas mal.
La biographie de Wallet? Non, t'es pas en train d'écrire ça? Okay.
Il n'y a pas grand-chose à écrire. Non, un chapitre.
La biographie de Triple Option.
C'est bon. OK, merci beaucoup d'avoir été là. Les boys, ça a fait un plaisir de vous rencontrer en live. C'était assez impressionnant, très honnêtement. Oh, très nerveux depuis deux semaines à propos de cette soirée-là. Je pense que ça a été vraiment le fun. Ça va devenir une tradition une fois par année. Tu n'auras pas le choix de ta belle-sœur
à Sainte-Marie. On ira jouer au golf.
On ira jouer au golf. Chers auditeurs à la maison, merci beaucoup d'avoir été là. Jusqu'à la prochaine fois, je vais vous dire…
plugger la place. Pour finir, une autre fois.
On est en direct du studio, bien entendu. Donc, si vous voulez louer ce studio-là, vous parlez à pratiquer. Thomas Levac, Stéphanie Vandelac sur les internets. Si vous voulez vous pratiquer à faire des podcasts, vous pouvez venir ici. C'est très chaleureux, très accueillant. Merci beaucoup à l'ami à la console qui nous a accueillis avec des petites consommations. Puis c'était vraiment très agréable.
Rock on.
Les gens à la maison, jusqu'à la prochaine fois, je vais vous dire, passez-vous la soie dentaire. Soyez sages, aimez-vous. Bye-bye.